La maman, quand elle était gamine, avait apparemment une cabane.
Moi, j'ai une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des cabanes? Il y a toujours ça dans les films. Et du coup, quand j'étais petite, je pensais que j'étais en train de rater mon enfance parce que j'avais pas de cabane.
Moi, j'avais une cabane.
Moi, j'avais une cabane.
Moi aussi.
Vous me dégoûtez. Allez, la suite. Donc, j'ai vraiment raté mon enfance. Allez, non, next.
Rassure-toi, Johanna, ma cabane, il y avait juste la tondeuse à gazon dedans.
C'est trop triste.
C'est pas une cabane, Kevin, c'est un cabanon.
Oui.
C'était ma chambre.
Il y avait des bidons okay. d'essence, il y avait la tondeuse, il y avait des poussailleuses. Ah, j'étais bien.
In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, depuis la réouverture des salles, enfin, Feta Béa retrouve un semblant de programme et recolle à l'actualité ciné de notre douce France en se tournant vers la Béa de Petite Maman, le dernier film de l'incroyable et brillante Céline Sciamma. Cette même réalisatrice qui, après nous avoir invités dans le drame purement romantique de son portrait de la jeune fille en feu, rajoute à son arc passionné et passionnant de cinéaste la corde du fantastique jouant avec le temps et offrant la possibilité à une petite fille de rencontrer sa maman sous un nouveau jour. Mais si nous pouvions nous aussi remonter le temps, qu'est-ce qu'on ferait? Qui irait-on voir? Que changerait-on? Deux bien belles questions qui vont être très vite répondues avec les présentations de la team d'aujourd'hui. Ambiance nostalgie.
Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous.
Autour de la table pour nous accompagner dans cet épisode 52, Kevin. Salut Kevin.
Bonjour.
Alors si toi tu pouvais remonter le temps, que ferais-tu?
Bah je recommencerai à faire ce que je peux plus faire aujourd'hui à cause du regard des autres, c'est-à-dire mettre des coquillettes dans mes yaourts aux fruits.
Ok.
J'ai eu très peur, je pensais que t'allais dire bien pire.
Ouais, j'avoue que ça commençait très mal, j'ai eu un peu peur aussi. Non, des coquillettes dans les yaourts?
Ouais, quand j'étais petit, c'était mon plat préféré.
C'était bon?
Bah j'ai souvenir que c'était pas mal.
On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Clémence est aussi là. Clavie,
oui,
Clémence.
Salut.
Ça va?
Oui.
Alors, si tu pouvais remonter le temps?
Et eh ben moi j'irais un dimanche soir vers 18h à peu près, n'importe quel dimanche soir, devant Vidéogag, et je me ferais couper les ongles par mes parents devant Vidéogag.
Ah, c'était ça ton programme du dimanche soir?
Non.
Couper les ongles.
Non mais je trouve que c'est un délire de se faire couper les ongles par quelqu'un d'autre en fait. Devant Vidéogag c'est encore mieux.
Ok.
Ok, Kevin, Clémence, les colocs, on comprend maintenant.
Ils ont des kings bizarres. Mais...
Johanna aussi, tu es là. Salut Johanna.
Salut.
Alors, si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps?
Alors, moi, j'irais voir mon père et je lui dirais ne loue pas cette cassette de Bambi. Parce qu'en fait, il a loué Bambi un mercredi. Ce film m'a traumatisé. Du coup, je voulais plus qu'il loue de cassette vidéo. Donc, j'ai demandé qu'on m'inscrive au judo. Et au judo, j'ai appris la criminalité et la corruption. Au bout de 3 semaines de judo, il y a un des maîtres de judo qui a tabassé l'autre maître parce qu'il avait volé dans la caisse. Et au bout d'un an de judo, il y a une fille qui a débarqué on ne sait pas d'où. Et en 2 semaines, la meuf, elle était ceinture noire parce que ses parents avaient payé. Donc voilà, merci pour cette expérience du judo, c'était super.
De traumatisme.
À cause de Bambi.
Ouais, j'aurais dû faire du Viet Vo Dao, je pense.
Regarde pas Dumbo. Clément aussi, Clément qui est là. Salut hey Clément.
Salut. Alors moi, je conserverai mes cartes Pokémon au lieu de les vendre parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher et en plus, j'avais un Dracaufeu brillant.
Non.
Tu l'as vendu.
Vérité. Ouais. Ah ouais, parce que c'est la folie en ce moment. Tout ce qui est cartes Pokémon, il y a des révélations de deck, il faut trouver le Draco Feu qui brille. Je comprends pas trop, mais ça, c'est passionnant.
Ben voilà. Voilà.
Grosse Pokémon mania.
Je les ai vendus pour 50 euros l'ensemble et c'est pas une bonne.
Oh là là.
Ah, bien à voir, à mon avis.
T'aurais pu tout convertir en bitcoin et aujourd'hui
putain,
être le roi
et
du
et
monde.
Pauvre, que ça a chuté.
Et toi, Romain, alors ?
Oh, moi, si je pouvais remonter le temps, je crois que je retournerai à la fête du collège en 3e 2004. J'irai me voir moi-même et simplement, bah, je me casserai la gueule jusqu'à finir à l'hôpital pour m'empêcher de monter sur scène en pleine mue et chanter Numb devant tout le monde.
Oh,
ça donnait un truc du style I've become so numb. Devant 300 personnes, ça a été très très compliqué.
Y a-t-il une trace vidéo de cet événement?
J'espère. Et on vous la proposera en description.
2004, dans mon Vietnam natal, les téléphones c'était encore en VGA, ça pouvait filer 8 secondes max. Donc heureusement, la technologie pour le coup
m'a sauvé.
Ouais, m'a sauvé, clairement. Ah, ça
et
va la team. Et vous, auditeurs, dites-nous.
Et vous, quels sont vos souvenirs?
Les ciné qui ont réouvert là depuis le 19 juin.
Ouais.
On nous a redonné une once de liberté. Les terrasses aussi. Alors, vous êtes plus team ciné ou plus team godet pour le coup là?
Et je fais ni l'un ni l'autre. Ma vie est trop triste.
Bon, n'importe quand, on est allé en terrasse.
Quand?
À Nantes.
Oui.
Ah oui, à Nantes avec Romain. Bah oui,
ah ouais.
Bien sûr.
Ouais. Voilà.
Ouais. Vous avez
ça
vu
t'a
des
marqué.
Vous avez vu des choses un peu au ciné depuis ou?
Oui.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes allé voir?
Mandibule.
Mandibule.
Oui. C'était très marrant. Le Dernier Voyage, très bon. Très bon. Bon premier film de SF. Très prometteur, je trouve. À voir.
Ben grave, genre, je le recommande.
Ouais, bah moi, je me suis un peu plus envoyé des pichets que de ciné, du coup. pour le coup. Non, je suis juste allé voir Adieu les cons et j'ai passé un superbe moment.
Oui.
Ça, c'était cool. Donc voilà, ça fait plaisir hein, de retrouver avec le soleil en plus qui revient. Bah, cette liberté qui nous a trop manqué. Et vous avez pas trop eu la GDB là depuis le passage du cousin dans le dernier épisode qui a débarqué?
J'ai mis une semaine à leur mettre.
J'ai pas envie d'en parler.
Bah, moi j'ai pas bu, j'étais dehors.
Ouais, Kevin, t'as été un peu exclu par le cousin Jean-Michel. Hein, mais...
Non mais après je suis allé le voir à Perpignan, on est d'une pote.
Ah, c'est ouais, cool.
Ah
c'est
donc
cool.
Il est bien rentré.
Ouais, il est bien rentré, tout va bien, Ginette va bien, vous embrasse.
On l'expédie.
Allez, on passe au sommaire de l'émission et vous l'aurez compris, côté BA aujourd'hui, il sera question de Céline Sciamma avec son nouveau film Petite Maman. Et Sciamma, ça rime avec cinéma. Mais à quoi ressemble le ciné Sciamma? On fera le tour de la question en vous évoquant en trois mots l'impact de la réalisatrice sur notre cinéphilie. Et puis, en deuxième partie d'émission, on revient sur les Mitchell contre les machines, le film d'animation Sony qui a envahi Netflix et on vous donnera nos avis, douille ou pas douille. Bref, la même corée que d'hab, le match retour quoi, hein, et spoiler alerte, on veut bien se faire adopter par les Mitchell
oui.
Là, autour de la table. Moi, je suis prêt à signer.
Ouais, carrément.
Voilà pour le sommaire. Sans plus tarder, on se dirige vers la BA de la semaine. Petite Maman, hein, qui, on le rappelle, pour les auditeurs, est toujours en lien dans la description de cet épisode. Allez la mater, hein, ça peut aider hein, pour comprendre l'épisode qui va arriver là tout de suite. Et la BA qui va suivre. Let's go, BA.
Allez,
let's go, BA.
C'est quoi?
C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé.
C'était pas la reine de l'orthographe. Mais moi, tu la faisais où, ta cabane?
Dans les bois, juste derrière.
Ça te fait de la peine d'être ici?
J'aimais bien cette chambre.
Moi aussi, je suis triste.
Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve.
Tu viens m'aider? Je t'avais jamais vu avant. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais, Nelly. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien faire des petites tignes de chocolat et les manger.
J'ai retrouvé l'endroit de la cabane de maman. On ne parlait jamais de quand vous étiez enfant.
T'exagères, on te raconte tout le temps.
Non, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur. Tu seras d'accord pour que je dorme chez elle?
Quand?
Je sais pas, elle m'a pas encore invité.
Je pense déjà à toi. Je suis contente qu'on se soit rencontrés.
La BA de Petite Maman, le nouveau film de Céline Sciamma, une courte BA. ça fait plaisir, rafraîchissante. On va en parler tout de suite, mais vous connaissez la routine, avant toute chose, il faut qu'on sache combien il y a de plans.
Oui, on peut plus tenir là.
Dans cette BA. Et
combien il y en a?
Ah ben, c'est faisons pas
des paris,
dire,
faisons des paris.
Toi tu sais pas alors.
Quelle moyenne?
Moi je dis, il y en a 0,8.
0,8 pour toi David.
C'est vrai qu'on pourrait faire des petits jeux autour
0,4
de... Vu que ces stats servent à rien.
Bah écoute, moi j'annonce un 0,6 classique.
Ok, voilà. Très bien, moi j'annonce rien parce que je le sais.
On ne se mouille pas.
Non pas parce que...
Comment tu peux le savoir?
Non, je le sais.
Mais parce que je l'ai vu en train de triturer El Calculator avant.
Quoi?
Ah t'as triché.
Fais gaffe Romain.
Bon, il va nous en parler tout de suite, allez on appelle El Calculator.
C'est moi. Bonjour les mamans.
Bonjour.
En plus, aujourd'hui, c'est la fête des mères.
Oh,
oui, c'est vrai.
J'ai
oui.
même pas fait le mien.
Bah, moi, je l'ai fait.
Bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent.
Oui.
Ah, ça fait sens, c'est ouf.
Dans la BA de Petite Maman, il y a 55 plans en 1 minute 40, soit 0,5 plans par seconde. C'est Romain qui était le plus proche.
Ah bon?
J'avais dit 0,4.
Bah c'est aussi clé, on s'en fout. Voilà, 0,5
un partout balle au centre.
Ben, écoute,
oui, bah, 0,4, 0,5, 0,6, ouais, c'est
toujours
0,8, c'est pas loin.
Petite BA, petite maman. Et qu'en as-tu pensé, toi, de cette BA et le calculateur?
Un petit avis.
J'aimerais, moi aussi, rencontrer ma maman plus jeune, mais elle est déjà en moi. C'est ma carte mère.
Ta fameuse carte.
C'est beau ce qu'il
dit. Petite... C'est beau, c'est puissant. Ça veut dire que c'est lui qui porte sa mère en fait.
Il porte sa propre mère. Et non pas l'inverse.
C'est une inversion ontologique.
Et du coup, tu considères Romain comme qui?
Ça fait plaisir ce silence calculateur.
J'ai rien dit, elle calculateur.
La personne qui m'a acheté au magasin. Mon propriétaire.
Si on veut.
Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité?
Allons-y, vas-y, fais-toi plaisir.
Le film dure 1h12 et la BA contient environ 1 minute 30 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,4% des images du film.
Oh, c'est pas mal.
Ça en révèle beaucoup.
Pas mal. Combien t'as dit de temps le film?
1h12.
Sans
ah ouais,
déconner.
C'est super court.
Ouais. C'est plus court que Cusco, je crois.
Le maître est talon.
J'ai la compris, c'est plus court qu'un Cusco.
Par contre, c'est plus long que Lux à Eterna.
Oui.
Et c'est aussi... Bon, on va pas faire tous les films. Hein. C'est moins long que
Titanic. c'est un tout petit film tout court.
Petite BA, petit film, petite maman.
Petite maman, voilà.
D'accord.
Et bien, c'est bien que trop en dire.
On en a appris des choses.
Merci, El Calculator. Et toi, c'est petite carte mère ou grosse carte mère, du coup?
Moyenne.
Allez, vas-y, tu m'as saoulé. Éteins-toi. Merci, El Calculator.
Tu l'as victimisé, limite. C'est clair. Tu l'as trop bouli.
Ce robot me fait de la peine.
J'ai paniqué, je vous avoue. Allez, on part dans la BA. On attaque tout de suite. La BA s'ouvre sur le panneau compétition qu'on connaît un peu, qui annonce la participation à certains festivals. Et pour le coup, là, c'est la 71e. C'est la 71, j'arrive pas à le dire.
C'est Berlin.
La Berlinale 71.
Number 71.
Elle a pas décroché, elle a rien décroché.
Non, mais elle était en compétition.
Elle était en compète, de toute façon c'est une habituée, hein, la Céline. On continue dans la BA et tout de suite ça nous révèle une petite fille et sa mère qui explorent des souvenirs. Et donc on retrouve cette petite fille qui ouvre un cahier avec sa maman et puis... qui se rappelle l'enfance de la maman.
Et qui balance une punchline dès le début, genre « t'étais pas très doué en orthographe ».
Ouais, j'avoue, grammaire nazie, ouais. Là, direct.
Bam.
En plus, la gamine doit avoir quoi, elle est 8 ans ?
Bah ouais.
Ouais, un truc comme ça.
Tu vois, le film n'est pas réaliste, les enfants ne savent pas écrire aujourd'hui.
Oui. Ouais, ouais. Il n'y avait pas, nous on avait les bleds, pour ceux qui connaissent.
Oui,
ça m'a
les
bien
bleds.
Aimé.
De ouf.
Quel cauchemar, mais en même temps, ça, aujourd'hui
c'est
ça
c'est quoi sauve. Les
bleds ? Je connais pas.
Tu connais pas ces bouquins t'avais Becherel pour la conjugaison, c'est ça, Becherel ?
Becherel, c'était orthographe.
Orthographe et bled, c'était conjugaison.
Non, Becherel fait aussi conjugaison, excusez-moi les amis.
Oui, mais nous, on avait le bled et le Becherel. C'est peut-être pour ça qu'on est meilleurs, excusez-nous.
Il y a un grand débat,
d'ailleurs,
grand combat.
À la fin de cet épisode, il y aura une dictée, restez avec nous.
Ah, absolument pas, on continue dans la débat. Le piano qui se lance, le logo.
C'est pas ça la mélodie, je crois.
On est dans le couscous.
Le logo Pyramide Distribution. Alors, Pyramide Distribution, c'est simplement les distributeurs de Céline Sciamma depuis Tomboy. Puis qui ont distribué plein d'autres films qui sont très très du coup
égyptiens,
très auteurs, hein,
c'est des films uniquement égyptiens.
Rien à voir avec Patrice Lafont.
Sont, en fait, c'est des films qui sont très comment dire ciblés pour le festival, quoi. Donc c'est très Cannes, c'est très quinzaine des réalisateurs.
Enfin, c'est très auteur, c'est comme Sophie Dulac un peu.
Ouais, voilà.
Un peu dans le même sens.
Et ils ont notamment aussi distribué un des plus grands films qui existent sur cette terre, qui sont Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait.
Merde.
Emmanuel Mouret.
Putain, mais il nous rattrape toujours, lui.
Il fallait la ref pour le coup.
Sébastien Mouret.
La première scène de la BA, enfin la deuxième scène de la BA du coup après le logo, la discussion en off entre une mère et une fille qui sont dans une voiture. Et elle se dirige vers où cette gamine et sa maman ?
Vers la maison de la grand-mère.
Vers la maison de la grand-mère.
Qui est défunte.
En fait, elles ont prévu de faire une espèce de pèlerinage de souvenirs. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, la grand-mère est morte probablement et donc on va dans la maison familiale pour ranger les affaires,
ouais, pour vider la
faire
maison,
du tri, ouais, peut-être vendre la maison.
Ah, théorie ?
On est déjà direct dans la spéculation.
Attends,
immobilière.
Spéculation immobilière.
Stéphane Plaza sur le coup.
Ouais. Ah, je suis sûr que Clément, il connaît le prix et tout de la maison.
C'est
un très beau masse.
Mansardé. Je dis des mots, je ne les connais
on
pas.
On sent tout de suite cette ambiance nostalgique en fait, ouais, qui va imprégner à peu près toute la BA. La gamine qui lui pose la question, ça te fait la peine d'être
oui,
ici ?
Oui, c'est ça, c'est le franc-parler de l'enfant qui demande cash. T'es triste ?
T'as envie de pleurer ?
Oui. Laisse-moi goûter tes larmes.
Non, ça c'est Cartman.
Et donc elles arrivent dans cette maison. On a aussi une scène avec le père. Les deux parents sont présents.
Ah, je suis pas sûre que ça soit le père.
Ah ouais.
Moi, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé avec Kevin et il disait que c'était l'oncle. Et là, en revoyant la BA, on voit un moment que ça parle de leur enfance à la mère et lui.
Ah.
Donc je pense que c'est l'oncle.
Alors je
peut-être le frère.
Mais moi je pensais que c'était le tonton aussi. On en a parlé, mais après j'ai fait quelque chose de mal. Je suis allé sur Allociné, j'ai regardé le casting.
Tu plaisantes.
Et il est crédité comme
le père.
Le père.
Ok, ma théorie tombe à l'eau.
Super, spoiler alert.
Super.
Merci.
Donc on nique.
Oui, non, mais il fallait que je le partage avec vous.
Tu viens de niquer mon dimanche. Je vais aller en terrasse, moi, tiens.
Après c'est peut-être une famille du Nord.
Donc c'est le père.
Donc le père, voilà, petit déjeuner avec le père. Ils annoncent que la mère est partie. Et que ce sera mieux comme ça.
Alors pour oui.
Voilà, question, pourquoi ?
Pourquoi elle est partie ?
Peut-être qu'elle supportait pas.
Moi j'ai une théorie, c'est que cette scène au fait elle est plus loin dans le film, beaucoup plus loin, et que au fait c'est la mère enfant qui est partie et le père qui dit elle est partie, c'était mieux comme ça.
Ah, tu penses que c'est du bullshit de montage de Béa ?
Je pense.
Bah, je sais pas, parce qu'il dit à la gamine, va chercher un truc dans le placard. Alors qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. J'ai plein d'idées sur la question, mais bon.
Attends, moi je sais ce qu'elle va chercher. C'est une boîte de Quality Street, mon gars.
Oui,
et là, on est sur la boîte de Quality Street temporelle, et ça, c'est incroyable.
Oh. Il est déjà parti trop loin.
En plus, en vrai, la boîte de Quality Street, moi, ça me fait penser à ma grand-mère
mais
direct.
Ça, c'est la douille. Ouais. Ça, c'est la douille, ces boîtes-là. Tu te dis, les petits cookies, là, les petits trucs. Non, fil à couture, aiguille.
C'est vrai, il n'y a plus jamais les Quality Street dedans.
Jamais vu un seul gâteau dans ce genre de boîte.
Est-ce qu'on peut revenir à...
Oui, bien sûr.
En fait, pour que les gens comprennent, donc en effet, on a l'impression, tel que la BA est montée, que la mère est partie du jour au lendemain, alors qu'il venait d'arriver dans cette maison pour ranger des trucs, et le père dit à la fille elle est partie, c'était mieux comme ça. Donc c'est super bizarre, et ensuite il lui dit mais va dans le placard. Il lui dit quoi déjà, enfin,
on va la retrouver.
Viens, on règle ça vite et on la retrouve, un truc
ouais,
comme
il doit
ça.
Retrouver la mère,
ouais. Franchement ça n'a aucun sens.
Et en plus moi j'avais pas compris ça comme ça au début, j'avais l'impression, enfin la première fois que j'ai vu la BA, j'ai l'impression qu'il disait elle est partie, c'était mieux comme ça. J'avais l'impression qu'il parlait de la grand-mère.
Et ben moi aussi au début, mais je pense que c'est la mère.
Mais en fait je pense que c'est la mère concrètement, mais je sais pas. Ça peut...
Est-ce qu'ils sont pas disputés ?
Il y a un double sens chelou.
Du coup.
Écoute.
Le couple.
Va savoir, peut-être que oui, par rapport à la vente de la part.
Peut-être qu'il est juste parti acheter des clopes.
Ça, on sait ce que ça veut dire, hein.
C'est clair.
Donc ils doivent retrouver la mère, et là c'est la fameuse scène de la rencontre dans les bois, où elle rencontre une autre petite fille qui construit une cabane.
Qui lui ressemble beaucoup.
Qui lui ressemble quand même presque comme deux gouttes
comme
d'eau.
Deux gouttes
si
d'eau.
Ce n'est comme deux gouttes d'eau. Assez étrange. La musique, là j'ai noté une musique style film de Noël. Je sais pas si ça vous parle, le film de Noël américain. On a une musique comme ça qui s'ambiance et tout, qui commence à sortir avec des petits carillons.
À Noël, redécouvrez la magie.
Ouais, c'est ça. Et place à la magie, au fantastique. Et c'est parti. On s'engouffre dans la BA et on voit les deux petites filles qui font connaissance autour d'un bol de céréales, qui sont jumelles hein, pour le coup. Là, on le remarque vraiment distinctement là pour le coup.
Mm-hmm. Mais elles se connaissent pas dans l'histoire parce
non.
que là, elles se présentent à ce moment-là.
Voilà.
C'est dit, comment tu t'appelles ?
Nelly.
Nelly pour l'une et l'autre, on sait toujours pas. On saura jamais.
Peut-être Kelly.
Elle s'échange des petites madeleines comme ça, comme quoi il y en a une qui aime bien faire des petites îles de chocolat et les manger. Est-ce que vous aviez, vous, comme ça, des petits rituels?
Bah, pour Kevin, on
bah,
sait.
Moi, je t'en ai parlé il y a peu.
Le volcan dans la purée.
Ah,
oui,
ah,
oui, classique, classique.
Alors, comment vous faisiez vos volcans?
Alors,
franchement, ça m'intéresse.
Tuto volcan.
Moi, je faisais la cuillère exclusivement.
Non, mais est-ce que tu mettais quelque chose dans ton volcan? Tu mettais de la lave ou pas? Parce que...
Je mettais souvent la sauce de la viande.
Ouais. Exactement, voilà, c'est ça vraiment la subtilité, c'est que tu mets la sauce et après tu trempes.
Quoi
d'autre?
La lave.
Et après, je mettais
ketchup,
des petits pois.
Je sais pas quoi.
Je mettais des petits pois et j'imaginais que c'était des gens qui mouraient dans l'avalanche
Les
émanations du volcan.
Une fois, j'ai refait Pompéi, j'ai mis des cailloux dans mon assiette.
Mm-hmm. C'était bon?
C'était pas mal.
Oh, ça m'a écouté.
Moi, j'étais le roi des mélanges improbables. Des trucs de fou qui rendaient fou ma mère. J'ai mélangé un jour du coca et du lait pour voir ce que ça faisait. Et ma mère, elle a tenu de piquer en mode termine ton verre, quoi. Termine ton verre, je m'en fous. Alors, c'était dégueulasse. Ne faites jamais ça. Les coca, mais quelle idée, n'importe quoi. J'avais pas mal de trucs comme ça.
Je suis sûr que ça peut se faire. Je vais tester, tiens.
Voilà. Elles sont kiff, c'est de faire des petits tas de chocolat et de les manger ensuite. Pourquoi pas? Discussion ensuite dans la BA entre le père et la fille à propos de la cabane de la mère. Et elle lui reproche justement, elle leur reproche de pas trop parler de leur enfance en fait.
Bah c'est là que je comprends pas, parce que enfin, est-ce que ça veut dire que le père faisait aussi partie de l'enfance de la mère? Enfin moi je comprends pas, tu vois.
Ah non, moi je pense qu'elle reproche à ses parents de façon générale, tu sais, elle dit en fait vous parliez jamais, à part des trucs superficiels quoi, parce que lui il dit oui, mais il dit vous parliez jamais vraiment de votre enfance.
Ouais,
elle dit c'est toujours des petites histoires.
Ouais. Mais ça, moi je me reconnais là-dedans, c'est
donc,
vrai que
il développe moi, pas quoi.
Personnellement, l'histoire de l'enfance de mes parents, je la connais très très peu.
Par bribes, ouais.
Par bribes. Mmh. Et vous êtes calé sur l'histoire de vos darons ou...
Pas du
tout.
J'ai
fait un mémoire dessus. Hein.
Ouais, non, c'est pareil, c'est des bribes aussi, ils racontent des anecdotes soit un peu marrantes, soit des trucs qui les ont marqués, mais c'est vrai que on n'a pas l'histoire globale.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'on oublie un peu aussi notre enfance, plus on vieillit quoi?
Oui, ouais, je crois que c'est parce qu'on n'ose pas demander aussi aux parents d'approfondir.
Ouais.
Et puis est-ce que parler de ton enfance ne peut pas donner l'impression que tu es moins dans l'autorité, etc. Tu vois? Peut-être.
Un vrai débat, ça, de société.
Non, mais on dirait que c'est un peu ça qu'elle leur reproche en creux, c'est que bah, on pourrait être plus proche si vous parliez aussi de votre enfance, quoi. Mmh. Surtout qu'on aime les mêmes choses, les cabanes, la forêt,
les chocolats entassés, les Quality Street.
Et là, oui, bah, les petites filles deviennent vraiment amies. Hein. Elles construisent ensemble la cabane, une cabane. Les petites filles, vous sentez venir le truc. Mmh. La BA, révélation, bim, j'ai un secret. Je suis ton enfant.
Oh,
l'anti-Dark Vador.
Et là, le poker face incroyable, ça, il n'y a que les enfants pour faire ça. Ah, tu viens du futur?
En mode j'ai trop l'habitude.
C'est pas du tout choqué.
C'est ça que j'aime bien dans cette BA, c'est qu'on sait pas trop exactement comment ça se passe, le fait que la présence de la mère en tant que petite fille, est-ce que tout le monde la voit et tout, mais il y a un côté fantastique qui baigne le tout en fait, en mode on accepte.
Ouais. Mais quand tu analyses les vêtements, par exemple, il y a vraiment une gamine qui est habillée genre années 80, quoi, col roulé, petite veste de l'époque et tout, et l'autre qui est un peu plus moderne avec une.
On voit pas trop dans quel sens ça va. On sait pas si c'est la gamine du présent qui va dans le passé ou si c'est l'inverse. C'est un peu confus.
Peut-être qu'elles font les deux. Peut-être c'est comme dans Dark. Elles passent dans le Tipeee temporel là et Tipeee temporel comme dans Parasite.
Et tout se croise.
Oui, la cabane ressemble à un Tipeee temporel. Ça,
si vous voulez comprendre la blague du Tipeee temporel, on vous redirige vers l'épisode de Parasite. Où on fait cette blague de Tipeee temporel et c'est un peu le gimmick là depuis qu'on a sorti cette histoire de Tipeee temporel. Donc ouais, on sait pas, ouais, tu viens du futur et qui es-tu?
Ouais, et en même temps, il y a des scènes avec le père. Donc a priori, c'est plutôt celle du passé qui est venue dans le futur. Ouais.
Mais
a priori.
Mais c'est bizarre aussi, on dirait que c'est une espèce de plan aussi un peu métaphorique. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de... Je sais pas,
la douille.
C'est un peu de la douille, mais de la bonne douille, tu vois.
Ouais,
c'est
complètement. Je suis pas certain qu'effectivement, le film ait un fonctionnement sur le voyage dans le temps et tout. Je pense que c'est plus de la symbolique.
Ouais, quoi. J'ai l'impression.
Oui, puis on découvrira après, on reviendra dessus, mais c'est vrai qu'on voit pas, je crois qu'on voit pas d'autres personnes avec la gamine.
On voit la grand-mère quand elle était mère.
Oui, c'est ça, on voit la grand-mère.
Qui est jouée par la mère.
Oui, qui est une canne.
Oui, l'actrice qui fait la mère au début de la BA, on la voit à un moment, en fait, c'est la grand-mère.
J'ai pas capté.
Je crois qu'elles se ressemblent, mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes actrices, par contre.
Après, ça va très vite dans la BA, mais j'ai l'impression que c'est...
Ah, si c'est ça, c'est un bon mindfuck.
Mais on sait pas trop, oui, peut-être que ce sera pas vraiment expliqué. Dans la BA, ça continue après cette révélation, on a une succession de plans sur la musique qui repart. où on les voit avec un bateau gonflable dans la forêt, donc elles sont complètement cons, il n'y a pas de lac. Mais bon, elles ont envie apparemment
de naviguer. Arrête de juger les gens comme ça.
Elles ont envie de naviguer dans les feuilles mortes.
Comment tu méprises
Claire mange, quoi.
Toi, t'as mélangé du coca avec du lait,
ouais. Ouais, c'est clair, je crois que c'est mieux.
Et encore, c'est pas la pire. Bref, et on demande, elle demande à dormir chez sa copine. Ça, c'est un truc qu'on a tous fait aussi oui. quand on était petits.
Bien sûr.
Je peux aller dormir chez mon copain. Ouais. Non, faites-le.
Et moi, la réponse était toujours non.
Ouais, moi aussi, c'était toujours non.
Oh, c'est toujours oui, moi.
Pose-toi
ils étaient contents de se débarrasser de toi, allez.
On n'avait pas le même bulletin.
Mais bien sûr, vas-y.
Sont là, allez, le petit Romain. On n'avait pas le même bulletin.
Avec quoi il se la pète, on n'avait pas le même bulletin.
C'est clair.
Oui, mais bon, il y avait trois autres gosses à la maison,
mais
il fallait les virer aussi.
Ils étaient contents que tu partes.
Ouais,
mais du coup, voilà, je me pose la question parce qu'elle demande d'aller dormir chez, bah, du coup, chez sa petite maman.
Oui.
Mais où est-ce qu'on est là dans la BA? Du coup, est-ce qu'on est chez elle, c'est-à-dire la maison de la grand-mère, ou bien est-ce qu'on est chez les grands-parents de l'époque? Je suis perdu en fait, je suis
mais
totalement perdu.
C'est pour ça
perdu.
Que même si Clément, tu penses qu'il n'y a pas de fonctionnement de voyage temporel au sens propre, moi j'ai l'impression qu'il y aura quand même deux plans, c'est-à-dire qu'il y aura la maison du présent et la maison du passé et qu'elles pourront éventuellement être dans l'une et dans l'autre. Donc avec la grand-mère étant mère ou avec le père dans le présent.
Moi j'ai l'impression que quand même tout se passe dans la maison de la grand-mère au moment présent et j'ai vraiment l'impression que tout est fantasmé. En fait moi, la BA me fait vraiment penser à Souvenir de Marnie, le film de Ghibli. Où
oui.
C'est un peu le même, pas la même histoire concrètement, mais c'est un peu le même fonctionnement. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de délire un peu comme ça, où finalement la mère petite, c'est pas vraiment concrètement elle la voit dans le passé, mais c'est qu'elle se l'imagine, si tu veux.
Ça fait aussi penser beaucoup à Mirai,
ma
petite sœur.
Mirai
aussi,
ouais.
C'est
totalement ce que
j'allais dire.
À
un moment, en plus, c'est dans le développement du petit enfant
oui.
que
ouais.
de se projeter dans l'enfance de sa mère
et
la rencontre de façon fantastique quand elle est petite.
C'est vrai qu'on est peut-être dans un délire à la Mirai où, en fait, en gros, tout se passe dans la tête du. Enfin, quoique. Dans Mirai, il y a,
dans Mirai, y a des subtilités.
Mais en gros, c'est un peu ça.
Ouais, mais
il
y a cette idée-là quand même. Et en plus, j'ai vu que Siama avait déclaré qu'elle s'était pas mal inspirée de Miyazaki pour ce film-là. Donc.
Tu sais à quoi ça me fait penser aussi cette idée là justement en plus dans ce passage de Béa où on commence à les voir s'amuser et tout rigoler dans la forêt avec cette lumière. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au film de Spike Jonze, Max et les Maxi Monstres.
Ouais,
j'ai l'impression qu'on a cette espèce de nostalgie qui est là, qui existe dans l'imaginaire de l'enfant, et il y a cet aspect là qui ressort vraiment. Ça me fait
penser aussi à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je sais pas pourquoi. Quand ils sont dans les souvenirs, en fait c'est peut-être le truc de souvenir et d'un coup de se replonger dans des moments heureux ou pas et
Moi, ça me fait penser à Food Irene pour l'histoire de
la vache.
Ça me fait penser à Flubber aussi. Bah,
et n'oublions pas Street Fighter, bien sûr.
Ça me fait penser à l'Odyssée de Pi quand elles prennent le petit radeau et qu'elles vont dans la mer de feuilles.
Justement, elles ont compris.
Plein d'influences.
Elles ont compris que ça marchait pas trop sur la mer de feuilles. Et donc, du coup, il y a un plan où on les voit avec leur bateau gonflable au lac. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au loin, on voit.
Une pyramide du Louvre.
Pour moi, c'est pas une pyramide, c'est un bout de toit.
Mais non, c'est le logo de Pyramide Distribution, vous avez confondu.
Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une maison inondée dans le plan.
Ah, tu crois?
Ouais.
J'ai l'impression que c'est une espèce de pyramide un peu stylisée, mais.
Ah, pour moi, c'était un toit qui sortait juste de l'eau. Ouais. Ah, c'était peut-être une pyramide, après, écoute, je sais pas. On les voit se taper un fou rire sur du lait, elles pâtissent, elles font un gâteau d'anniversaire, elles font des crêpes.
C'est là les crêpes?
Là, on arrive aux crêpes.
Ouais. Alors, là, c'est un moment important. Je pense que tu as pensé à la même chose que moi, Romain. Ce lancer de crêpes réussi comme ça du premier coup face caméra, moi, ça me rappelle totalement Breaking Bad. Quand il lance la pizza sur le toit du premier coup, c'est quand même vraiment une belle référence.
Ça veut dire que ce sera une grande comédienne.
Oui.
On voit aussi la grand-mère là autour du gâteau d'anniversaire qui a une canne. Donc ouais, je présume que c'est la grand-mère et je trouve pas qu'elle ressemble à la mère. Enfin, je trouve qu'elle ressemble à la mère, mais je pense pas que ce soit la même.
Après, ça passe très vite dans la BA, donc c'est vrai que.
Bref, on est sur la fin de la BA et là c'est l'appel aux larmes, on est sur du full nostalgie, embrassade familiale en pagaille, on est sur une petite séquence émotion au lit où elle fait « je pense déjà à toi, c'est trop mignon, j'en ai des frissons quand je parle ».
Elle est belle cette réplique.
Je suis contente qu'on se soit rencontrés, ça a l'air tout mignon ces petites scènes et je sais pas pourquoi ça m'évoque de la tristesse.
Ouais mais je pense qu'on va chialer. Hein.
Bah parce qu'elle va sûrement partir et retrouver sa mère adulte, en la connaissant mieux.
Qui est beaucoup moins fun que sa mère enfant. Et du coup, elle est triste.
J'espère vraiment, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une théorie drame, en fait, qui se propose à ce moment-là. Ouais.
Ah, tu penses
que la mère est morte?
Je pense que la mère est partie, tu vois, mais partie, quoi.
Tu penses qu'elle est partie?
Ah ouais.
Tu penses que c'est pas la grand-mère qui est... mais c'est la mère?
Je sais pas, j'ai peur que ça se termine mal, franchement.
Rude.
J'ai peur que, justement, toute cette histoire, ce soit dans l'imaginaire de la petite fille qui s'est un peu blindée, tu vois, qui s'est un peu protégée. À travers son imagination. Voilà, bon.
Ouais, t'as cassé l'ambiance.
Ouais.
Non, mais c'est une BA très ouverte. Hein.
C'est une très belle BA, c'est une BA qui est très sympa. Et puis, on se rend compte que la musique qui carillonne et tout, elle part en chanson. Des voix d'enfants
qui chanteront
de nouveaux rêves. J'ai les paroles, vous savez que j'ai retrouvé ça dans le dossier de presse, dans le dossier de presse de Petite Maman.
C'est
en fait.
Les paroles ?
Ouais, ouais, elle parle de cette musique et c'est vraiment une musique qui a été composée avec son complice Jean-Baptiste Delobier, Parawan/Parawan, voilà, je fais du name dropping, je sais pas du tout qui c'est. Mais en fait, ouais, ils ont écrit les paroles au futur qui parlent de futur, pardon, ils ont écrit des paroles au futur du coup. Et donc voilà, elle le dit, elle, dans son dossier de presse, ça convoque à la fois le rêve du film, le rêve d'être enfant avec toi. Et j'espère un rêve plus grand porté par leur voix.
Et c'est quoi du coup les paroles ?
Alors les paroles, c'est le rêve d'être enfant avec toi, le rêve d'être enfin loin de toi. La chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a dans le cœur. La chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a sur le cœur. Si mon cœur est dans ton cœur est dans ton cœur, mon cœur.
On dirait une incantation, j'ai peur.
Mais voilà, là je le dis très vite, mais c'est vraiment...
Très maléfique.
Non, mais la chanson Voix d'enfant, telle que vraie, elle est vraiment chantée, pas comme toi tu la chantes, Romain. Je trouve que ça fait très conte.
Ouais,
ça fait penser à Coraline, ça fait penser à... Enfin, ça fait très conte fantastique, je trouve.
Ouais, et donc voilà, elle le dit, et je voulais que la chanson appartienne totalement au film, mais qu'elle puisse être aussi l'hymne d'autres choses, qu'elle puisse accompagner une manif d'enfants, par exemple.
Oh, oh, génial.
Une manif d'enfants.
Okay. D'enfant.
Mais c'est intéressant que cette chanson ait de l'importance, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans son film précédent, dans Portrait de la jeune fille en feu, l'usage de la musique est hyper intéressant.
Incroyable.
Et le seul moment où il y a des voix chantées, c'est intradiégétique. Mm. Et c'est chanté dans le film, et du coup, ça te marque de ouf. Quoi.
Qui est l'affiche
et
du
c'est
film
le générique
aussi.
De fin, d'ailleurs, aussi.
Ouais.
Et elle est dingue, cette séquence.
Ouais. J'en ai des frissons.
Et le morceau est incroyable.
C'est fou.
Et je crois que c'était aussi Parawan à vérifier, mais...
C'est totalement possible, parce que là, elle dit qu'elle retravaille avec lui, donc ils ont travaillé déjà ensemble. La fin de la BA sur cette belle envolée lyrique, le titre qui apparaît, sur elle, qui prennent le large, où on revoit encore cette espèce de pyramide qui sort de l'eau. Le 2 juin.
C'est peut-être un nid de ragondins, en fait.
Quelle idée ?
Mais pourquoi ?
Mais tu sais, les ragondins, ils font leur nid sur les lacs avec des branches et
oui.
tout, et peut-être qu'ils sont extrêmement
ça
doués.
Ça se trouve, tout la porte à un castor bandeau.
Non, alors c'est leur tipi temporel qui est là métaphoriquement
ouais,
sur
alors
l'eau.
C'est François Cluzet avec ses fouines.
Oh mon Dieu.
Ouais, ça va beaucoup trop loin, les amis. Moi, je reste sur ma théorie de la maison inondée. J'ai l'impression.
T'as sûrement raison.
Voilà, la fin de la BA qui nous a été servie par, encore une fois, Sonia Toucourt. Voilà, qui s'occupe
de BA. Elle n'a pas de prénom.
Non, Sonia tout court.
Oui, c'est vrai que c'est souvent eux.
Est-ce que ça vous donne envie de voir ce film, les amis ? Johanna, as-tu envie de voir le film avec cette BA ?
Oui, oui, parce que ça a l'air mignon, ça a l'air poétique. Et ben, en fait, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma de Siama. Quoi. C'est... On en reparlera tout à l'heure, mais je suis hypée par cette bande-annonce.
Clémence, as-tu envie de voir ce film ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est une thématique qu'elle n'a pas encore développée, j'ai l'impression, ou peut-être dans ma vie de courgette, mais le côté parent-enfant, relation enfant-adulte, bah, j'ai très envie de la voir raconter une histoire autour de ça.
Je l'ai appris d'ailleurs en faisant mes recherches que c'est elle qui a écrit
qu'elle
le scénario.
Qu'elle a écrit,
de...
ouais, ma vie de courgette. Ouais,
je ne savais
courgette,
pas du ouais. tout, qui a écrit l'adaptation au ciné. Assez dingue, cette femme est folle. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec la BA ?
Ouais, ouais, carrément. J'ai l'impression que c'est un film qui va être tendre mais qui va être dur aussi quoi. C'est une espèce d'ambivalence là qu'il y a dans les je trouve dans les bons films qui parlent de l'enfance où c'est ni trop nostalgique ni trop défaitiste dickensien je dirais mais ouais un espèce d'équilibre entre tendresse tristesse tout ça quoi. Donc quelque chose qui va nous faire chialer encore.
Mmh, je pense que ça il va falloir sortir les Kleenex. Et toi Clément, la BA, le
oui,
film envie
oui
de
oui
voir.
J'ai trop envie de le voir, j'adore Céline Sciamma et je retrouve un peu la vibe qu'il y a dans Tomboy un peu avec, avec cette petite fille et je suis très impatient de voir qu'est-ce qu'elle va faire du fantastique et du symbolique parce que c'est quelqu'un qui avait quand même été en fait sur des films réalistes quoi, jusque là et j'ai envie de voir ce qu'elle fait avec cette poésie quoi. Donc ouais, très 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 hypé. Et toi Romain?
Pareil, on est sur un caté gagnant là autour de la table. Ouais, ouais, bah pareil que vous, hein, totalement hypé déjà d'une part parce que ben Céline Sciamma, depuis que j'ai rencontré son cinéma, j'ai vraiment envie de bah, de rien rater d'elle. Déjà, point gagnant. Et puis ben non, bah, la BA, je trouve qu'elle fait le taf. Elle nous explique vraiment. On a très peu de moyens de se faire des films sur ce qu'elle montre, mais on est aussi très raccord sur ce qu'elle va raconter. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a on a ce qu'il faut comme part de mystère et puis en même temps ça donne très envie. Je trouve l'image très belle, Claire Maton
oui.
encore à
ouais,
la photo.
C'est la même chef-op que Portrait de la jeune fille en feu
et Atlantique.
Ouais.
qui est Claire Maton, qui est pour moi une des meilleures chef-op aujourd'hui, parce que c'est clair que ces images, elles sont à couper le souffle. Portrait de la jeune fille en faux, c'était une photographie qui m'a sublimé comme jamais. C'était absolument dingue. Donc vraiment envie de, ouais, de traverser cette petite, ce petit film de nostalgie qui sera à mon avis plein d'émotions. Mais on va pleurer, c'est sûr. C'est sûr, on va pleurer. Petite maman de Céline Sciamma, ça sortira le 2 juin au cinéma. Ce sera, mine de rien, on peut penser qu'elle a une grosse filmo, mais pas tant que ça en fait, Céline Sciamma.
Oui.
Elle a quoi ? Elle a 5 films ? 6 films ?
Ouais, ouais, ça n'est
son... C'est son 5e film.
Je crois qu'elle est déjà en train d'écrire le prochain avec Jacques Audiard. Ça s'appelle Les Olympiades. Je crois.
C'est ça.
Olympiades.
Oula, ouais. Audiard, Sciamma.
J'aime bien ce duo-là, ça me plaît.
Donc Naissance des pieuvres en 2007, Tomboy en 2011, Bande de filles en 2014, une petite pause de 5 ans pour revenir en 2019 avec Portrait de la jeune fille en feu et aujourd'hui Petite maman qui arrive sur nos écrans la semaine prochaine. Le cinéma de Sciamma, c'est quelque chose qui parle à tout le monde autour de la table. Est-ce qu'on a vu tous les films ? Je pense pas. Moi, perso, j'en ai vu que deux.
Ah, moi, j'ai tout vu.
Avez tout vu. Vous êtes les bons élèves autour de cette table. Je vous ai demandé, comme on l'a déjà fait dans d'autres épisodes, notamment pour parler de Malick ou de Gaspard Noé, de me donner 3 mots pour qu'on puisse parler comme ça librement du ciné Sciamma, de ce que ça évoque chez vous, de ce que ça vous fait ressentir. Je vais commencer si ça vous dérange pas, parce que j'ai des mots qui sont un peu plus bateaux que les vôtres, on va dire. Donc voilà, moi j'ai proposé poésie moderne, amour et société, parce que je trouve que c'est tout ce qui englobe le...
Ça fait 4.
Oui,
4,
j'ai triché.
Poésie moderne,
qu'on s'en rendrait
poésie
pas compte.
Moderne est un seul mot.
J'ai essayé de vous douiller.
J'ai cru que amour et société était une catégorie comme
trivial poursuite.
Ils sont indouillables. Non, poésie moderne, parce que je trouve que c'est aujourd'hui celle qui représente le mieux ce qui est poésie moderne. On a une espèce de poésie urbaine dans ses films. Et puis même, on retrouve aussi dans Portrait de la jeune fille en feu. Enfin bref, elle a une façon de mettre en valeur ses personnages et de les écrire remarquablement bien, de manière à ce que je me retrouve là-dedans, que je tombe amoureux de son cinéma. Donc c'était mon deuxième mot, amour, et parce qu'elle trouve, je trouve que c'est celle qui aujourd'hui en France, voire même en Europe, voire même dans le monde, arrive le mieux à représenter la société et ses films empreints de cette poésie font ressortir des vraies réflexions sur le monde dans lequel on vit. Donc c'est là que je retrouve toute l'intelligence de Céline Sciamma. Voilà, en gros, j'ai pas tout vu et je vais faire au plus vite pour me faire Naissance des pieuvres et Bande de filles qui me manquent. Les autres mots, révolte, libération, sororité. Qui a
c'est
dit
Clémence.
Ça sur la table ?
Et alors ben absolument pas.
Et ben c'est donc c'est Kevin.
Et oui, c'est moi.
Si c'est coucou pas la coloc, c'est le coloc. Pourquoi Kevin ? Pourquoi révolte, libération et sororité ?
Je vais pas faire mot par mot, mais je vais prendre ça globalement. Moi, j'ai vu que deux films de Céline Sciamma, donc en fait c'est des mots par rapport aux deux films que j'ai vus, à savoir Bande de filles et Portrait de la jeune fille en feu. Et moi, si tu veux mon avis sur Céline Sciamma, j'ai l'impression que c'est une cinéaste qui est assez punk.
Totalement,
qui est vraiment une cinéaste de la révolte, mais qui est de la révolte douce, parce que dans les films que j'ai vus, la révolte passe souvent par des actions positives, par de l'amour, par la sororité justement, par le fait de se réunir souvent entre femmes, dans les films que j'ai vus en tout cas. Et je trouve qu'il y a une espèce de volonté de montrer qu'on peut se libérer d'un joug sans être dans la violence, sans être dans la positivité, dans la poésie en fait. Et voilà, c'est ce que je trouve se dégage, enfin ce qui m'a marqué en tout cas dans son cinéma.
Tu parles bien, hein.
Ouais. Franchement,
merci,
tu fais les
dignes des graviers.
Tu prends combien pour les dissertations
au gravier du cinéma ?
Alors, moi, je suis au gravier.
T'es au gravier du cinéma ? Incroyable. Non, mais oui, ouais, bah, c'est ça, cette poésie, puis cette révolte en même temps. Enfin, je sais pas, elle a une manière elle a une recette à elle, ça fonctionne. Et c'est très dur à faire ça en cinéma, c'est très, très dur. Bravo à elle. D'autres mots, 3 mots qui sonnent comme une devise : liberté, égalité, sororité. Ça pourrait limite être un titre, ça.
Clémence.
C'est Clémence.
C'est Clémence.
Oui, cette fois, oui.
Liberté, égalité, sororité. Ton programme.
C'est un bon mot, je me le suis permis.
Franchement, je vote pour toi.
Quel est votre programme pour 2022 ?
Non, mais il ne s'agit pas que ce soit réducteur, parce qu'il y a aussi plein de choses dans sa mise en scène et tout qui ne sont pas dites là. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment les symboles qu'elle véhicule. En effet, je trouve que ces personnages des films que j'ai vus sont vraiment libres. Ils se libèrent, en fait. Ça montre toujours cette libération. Je pense que ça va dans le même sens que la révolte disais, Kevin. Et égalité, parce qu'elle fait aussi vachement attention à représenter plus de monde. Elle fait partie du collectif 50-50 aussi, qu'elle a...
Explique-nous, c'est
participé à monter avec Rebecca Zlotowski et une autre assoce. qui s'appelait je ne sais plus comment. Bref.
Pour l'Académie des Césars, tout ça, c'est eux aussi qui avaient fait en sorte que...
Ça date de 2018.
Ah non, ça, quand ça compte, ils n'ont pas intégré l'Académie des Césars, c'était pas un truc comme ça.
Ils ont été consultés, ouais, pour que les Césars soient plus paritaires.
Ouais, en fait, le principe, c'est d'avoir plus de parité et d'égalité dans la représentation des personnages, mais aussi plus de parité dans les équipes de production de cinéma, en fait. Mmh. Donc, elle fait vraiment attention à tout ça, et ça se ressent dans ses films, parce qu'elle montre vraiment des personnages qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas assez vus, en fait. Elle les met en avant. Et puis, sororité, surtout, parce que ça va aussi avec, c'est que moi, elle me montre quelque chose que je ne voyais pas souvent dans le cinéma en général, c'est vraiment le rapport entre filles, entre femmes, d'une façon très positive. Dans Bande de filles, je trouve que ça se ressent beaucoup et ça fait du bien. En fait, c'est là que le bien-être vient, c'est quand les filles sont entre elles, quand les sœurs sont entre elles. Le portrait de la jeune fille en feu, c'est une histoire d'amour entre femmes. Et voilà, ça, c'est pareil, je ne l'avais jamais vu de cette manière-là. Donc vraiment, moi, ça me parle en tant que fille. Je ne sais pas si ça parle aux garçons, ça serait intéressant de voir
carrément.
Si bah, ça vous parle aussi. Mais
je suis traversé de frissons, en fait, depuis tout à l'heure. Je suis en train de me rendre compte que de parler de Céline Sciamma, ça me fait un truc. Ah, ouais. C'est dingue.
Et tu sais, tu parles de sororité, justement, dans Portrait de la jeune fille en feu. Il y a cette scène qui est magnifique, je trouve, où la servante leur avoue qu'elle est enceinte et qu'elle aimerait faire passer sa grossesse et que, justement, elles se mettent avec elle pour l'aider dans cette démarche et qu'elles sont ensemble jusqu'au bout et que, justement, les classes sociales n'existent plus à ce moment-là, quoi. Et je crois même qu'elles s'endorment sur le lit de...
Dans Portrait ?
Ouais, dans Portrait.
C'est magnifique, cette scène.
Ouais, elle est magnifique, cette scène.
Terriblement dure et en même temps très belle. C'est ça que j'admire chez elle, encore une fois. C'est assez fou. Mais oui, ouais, c'est vrai qu'elle a cette particularité à mettre en avant ces petites personnes qui habitent nos rues, qui sont dans nos villages, dont on ne parle pas vraiment, mais qui sont un peu reclus, un peu en dehors de la société parce que ben ils rentrent pas dans le moule, quoi.
Mais tu vois, par la sororité, je veux dire aussi qu'elle montre un point de vue de fille qu'on n'a pas d'habitude, en fait. Enfin, moi, ça me parle en tant que fille. Par exemple, dans Bande de filles, quand elles vont danser toutes ensemble sur des Rihanna, je vois ce que j'ai vécu, ressenti quand ça m'est arrivé de me lâcher et d'aller danser avec d'autres filles, alors qu'au début j'étais en mode oh, j'ose pas. Et ce bien-être là, quoi, ce truc de je lâche prise entre filles. Je pense pas que les gars, ça leur arrive beaucoup d'aller danser comme ça.
Sur du Rihanna
ensemble et
Clément et moi
et
tous les soirs.
Et se lâcher comme ça, tu vois.
Au Macumba, on est inarrêtable.
Bien sûr, c'est Lady Life. Non, mais oui, la féminité, le féminin, le féminisme, ça tombe bien parce que les trois prochains mots sont féminin, jeunesse, initiatique. À votre avis, qui
c'est Clément.
Oui.
Ça doit être Clément parce que sinon, Johanna. Je suis pas détective.
Très beaucoup, Johanna. Clément, pourquoi féminin? Pourquoi jeunesse? Pourquoi initiatique? Dis-nous tout, qui t'envoie?
Je trouve que c'est vraiment le féminin, c'est la thématique centrale de ces films, et aussi avec le questionnement autour de la féminité, notamment dans Naissance des pieuvres et dans Tomboy, où c'est qu'est-ce que c'est que de passer de fille à femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, d'être un petit garçon, d'être une petite fille, est-ce que tout ça n'est pas finalement beaucoup plus fluide que ce qu'on pense. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis initiatique, c'est qu'à chaque fois, c'est des récits d'initiation, c'est des personnages qui souvent au départ sont dans des situations un peu bloquées, ou qui ne se sont pas encore trouvés eux-mêmes et qui, à la fin du film, tels des papillons, vont sortir de leur chrysalide. Et voilà, et ça, je trouve ça bouleversant. Et que ça soit dans Bande de filles, dans Tomboy ou Portrait de la jeune fille en feu, c'est à chaque fois des portraits de personnes qui vont finir par s'assumer pour ce qu'elles sont, et même si elles sont différentes. Et c'était quoi mon autre jeunesse? Oui, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, elle est très intéressée par les changements, donc la mutation, donc la puberté, l'adolescence ou les très jeunes femmes. Et là, il y aura une grand-mère dans le prochain, donc j'ai hâte de voir comment elle va traiter ça aussi.
C'est vrai qu'elle est ambassadrice de la jeunesse féminine, Céline Sciamma. C'est tout de suite les mots qui sonnent en tête quand on y pense. Et c'est souvent, ça crée souvent des personnages très forts et très touchants et marquants. Pour le coup, Portrait de la jeune fille en feu, moi, c'était un de mes meilleurs films de 2019, quoi. C'était incroyable. Jojo, pour terminer, hein, tes derniers mots. Adolescence, féminité, frustration.
Oui. Alors, plus qu'adolescence, ce serait au fait tranche de vie à des moments charnières de la vie. Donc j'ai relié ça à l'adolescence parce que dans la majorité de ces films, les personnages sont quand même des filles adolescentes qui vont vers, ou des pré-ados qui vont vers l'adolescence. et qui se retrouvent confrontés à des frustrations, frustrations à cause de la société, ce que tu disais, qui ne peuvent pas pleinement exprimer qui elles sont de la manière dont elles voudraient à cause de ce qui les entoure. Quoi.
Du regard des autres.
À cause du regard des autres, ce qui revient vraiment dans tous ces films. Et ce qui me passionne, moi, dans ces films, c'est qu'elle va explorer plein de féminités différentes et plein de styles de femmes, de filles qui vont pouvoir évoluer justement comme elle le souhaite au final. Mais toujours, je trouve qu'il y a toujours quand même une petite pointe de frustration, c'est que dans Portrait de la jeune fille en feu, ben au final, elles ont vécu cette tranche de vie ensemble, mais elles ne vont pas la continuer ensemble. Dans Bande de filles, c'est pareil, ça finit un peu en suspens, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et j'ai pas envie de spoiler Tomboy parce que vous êtes là, mais à la limite, ce serait dans celui-là qu'on retourne à un point de départ qui est plus ouvert pour le personnage. Voilà.
Donc cette frustration-là, mais qui appelle à la réflexion, tu sors de la salle, t'es en mode...
Ouais. C'est ça qui appelle à la réflexion et à la révolte aussi des personnages et à toi te questionner à chaque fois. Je suis jamais sortie d'un de ces films sans qu'il y ait un truc qui bouillonne de questionnement et de réflexion.
C'est très politique.
Et l'idée que tu te heurtes à ton époque aussi quand t'es différent, ou même juste quand t'es une femme en fait. Et elle a souvent fait polémique, Céline Sciamma, bon, notamment il y avait eu l'affaire autour de Polanski et tout, mais on dit qu'il y a beaucoup de douceur dans ces films, et c'est vrai, mais ça fait réagir énormément, quoi. Et c'est quand même assez révélateur de notre société, je trouve.
Totalement. C'est une artiste. J'ai énormément.
Elle a un engagement, quoi. Elle est dans les têtes de manif sur tout ce qui est féminisme et tout. Elle est militante, mais pas dans le côté
pas
vénère.
Garde,
c'est
quoi.
Vraiment, je vais vous montrer des personnages de femmes qui sont coincés dans leur schéma à cause de la société, quoi.
Et c'est bien que t'aies mis frustration, Jojo, parce que nous, avec nos mots, ça pouvait donner l'impression pour quelqu'un qui découvrirait ce cinéma de Sciamma que c'est bienveillant et facile.
Ah oui.
Genre qu'elle montre des situations où tout le monde se libère et genre c'est facile. En fait, non, c'est pas du tout le cas, effectivement. C'est pour ça les exemples que tu donnais à la fin des films sont bons. C'est de montrer que, il y a la possibilité, mais encore faut-il.
C'est ça, c'est un combat.
La gagner, quoi.
C'est un combat. À chaque fois.
C'est un combat et le cinéma est son arme. Mm. Et elle le manie très, très bien. Et le fait qu'elle mette du fantastique dans son cinéma, qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Est-ce que vous pensez qu'elle va sur la bonne voie en utilisant le genre fantastique, pour le coup ?
Bah, elle a bien raison. Non, mais en vrai, par rapport à ce que tu dis, quand même, dans ces films, il y a toujours une arène, ce que j'appellerais une arène, qui enferme les personnages, quand même. Comme tu disais, la cité, l'endroit où t'es et dont t'arrives pas vraiment à sortir. Et là, malgré tout, même si c'est fantastique et tout, il y a quand même une arène qui est la maison de cette grand-mère. Mais je pense que ça va emmener un peu ailleurs, ce film-là.
Bah, en fait, c'est marrant parce que je trouve que dans Portrait de la jeune fille en feu, il y avait déjà une espèce d'aura fantastique quand même, parce que l'histoire de cette fille, Adèle Haenel, qui ne voulait pas se faire peindre pour ne pas se marier, elle avait une aura déjà, mais un moment à voir son visage en vrai et tout, elle paraît presque figée, quoi. Enfin, on dirait pas une vraie femme au début, après elle le devient concrètement, mais... Tu vois, il y a un truc un peu symbolique déjà qui était ultra fort, et même le moment où tu as les femmes qui chantent, là, ah, cette scène super forte, on est dans quelque chose un peu
mystique.
Tribal, un peu
limite
mystique,
sorcière,
voilà, c'est
un
ça.
Peu, ouais.
Et il n'y avait pas une scène d'apparition aussi dedans, la nuit ?
Si, c'est ça. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, je pense que c'est ça le mot. C'est le fantasme, parce qu'on est par les yeux de Noémie Merlan, qui en plus, c'est très énigmatique pour elle, et qui fantasme. Et du coup, c'était une manière de raconter le fantasme aussi, qui était le désir, en fait, le fantasme de quelqu'un qu'on désire. Mais je trouve que ça va, en fait, c'est une continuité, tu vois, avec le prochain, là, potentiellement. C'est qu'elle s'ouvre aussi à tout ce qui est imagination, en fait, tout ce qui est esprit et tout ce qui est mystique. Dans notre imagination.
Ouais, il y a déjà un côté conte, en fait, je trouve, limite.
Ouais.
J'avais vu une interview d'elle où elle parlait justement de ça, de pourquoi Adèle Haenel ne voulait pas se faire peindre, pourquoi elle ne voulait pas être dans un cadre, et comment elle avait réfléchi ça, comment le cadre, c'était un enfermement, etc. Et déjà, tu es dans la symbolique qui est très conte, je trouve, où tu as une espèce pas de morale, mais de message, en tout cas, sur la vie en général. Quoi.
Ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, on ressent ça dans ses films, mais elle n'a pas des films théoriques. C'est pas t'as pas tout d'un coup un personnage qui va arriver de faire la morale sur sur le propos du film. À chaque fois, c'est fait de façon très subtile. Les dialogues sont super bien dosés.
C'est organique, en fait.
Ah ouais, moi, c'est un régal à chaque fois, les dialogues de ces films. J'adore, quoi.
J'ai très bonne scénariste.
Après, j'ai l'impression que là, avec Petite Maman, elle se fait un petit kiff, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là que ce sera...
Ça a été tourné en confinement, non, je pense.
Ce sera un petit film, quoi.
Oui,
ce sera...
ouais, c'est un
oui
peu...
son idée, elle est venue avec le confinement, je crois.
Elle l'a ressorti au moment du confinement. C'était déjà un truc qu'elle avait travaillé avant et elle a ressorti, elle a commencé à le réécrire.
Je crois qu'il y a moins de 3 millions de budget, donc c'est vraiment un tout petit film en termes d'économie. Et oui, tu sens qu'elle a eu envie de tourner quelque chose un peu rapidement.
Elle travaillait déjà cette idée de faire rencontrer une petite fille avec sa mère au même âge. Mais j'ai l'impression que ce sera pas un film à une portée aussi forte que Portrait de la jeune fille en feu ou Tomboy ou Naissance des pieuvres qu'il a propulsé. Bon, ça c'est nos avis en tout cas sur Céline Sciamma. On vous a donné nos attentes sur le film Petite Maman le 2 juin au cinéma. Au cinéma, ça fait plaisir de le
c'est
dire.
Clair.
Et plus sur Netflix, ouais. C'est plus de trucs, ça fait plaisir. Et puis on n'est pas les seuls à réagir. Hein. Sur les
Quelle magnifique transition.
Transition, raccrochage de branche là. on s'engage sur le comme si, comme ça avec Clémence.
Comme si, comme ça, comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Le comme si, comme ça, c'est simplement les meilleurs commentaires, ceux qui ont marqué Clémence et qui vont nous partager.
qui m'ont marqué.
qui t'ont marqué, oui, on sait.
Ils sont dans sa chambre.
Le poster. Incroyable ce commentaire de Diego 362 qui nous a répertorié les commentaires des gens, leurs attentes sur le film Petite Maman. Alors qu'en est-il cette semaine, Clémence?
Alors qu'en est-il? Une chose intéressante, c'est que je vois que dans les commentaires que j'ai retrouvés, j'ai beaucoup de commentaires de femmes. Et en fait, j'ai que des commentaires positifs de femmes et j'ai un commentaire mitigé d'hommes.
Oh. Je sais pas si c'est un hasard. Coïncidence.
Voilà. Mais c'est intéressant parce que d'habitude, je trouve que sur les internets, les gens qui commentent sont très masculins. C'est beaucoup des mecs.
Commenter, on va commenter les gars.
Non, mais c'est vrai, vous ferez le tour de toutes les rubriques comme ci, comme ça. Il y a souvent des mecs plus qui s'expriment. Et là, il se trouve que c'est plus des nanas.
Eh ben ouais.
Et il se trouve que c'est plus des nanas qui font des commentaires sur l'aspect émotionnel, l'aspect sensible du film. Nous avons Emily Everdeen qui dit... Ça a l'air ultra mignon, les actrices enfants ont l'air incroyables.
Elles sont trop belles, ces gamines.
Ouais.
Mmh. C'est vrai ça a dû être bien galère de trouver en casting des jumelles qui sont actrices toutes les deux.
Oui, enfin, c'est ça, qui sont à l'aise devant la caméra.
Ok, pour jouer toutes les deux, ça a dû être bien bien relou.
Sophie Fogliata Dufour.
Comment non,
on va rien dire. On ne dit rien, on n'a rien à dire.
Qui dit, oula, ça a l'air très émouvant.
Alors. Oui. le commentaire plus court que le nom. On peut dire ça.
J'avoue, il y a plus de syllabes dans le nom que dans le commentaire.
Et Nadine Dudognon.
Non mais c'est pas possible. Non, mais
j'adore ça.
C'est un commentaire sur marmiton.com.
Elle est partie.
Nadine Dudognon qui dit oui, ça fait envie de le voir.
Comme cette tarte que je prépare. Mettez 200 grammes de farine.
Sarah Jeanjo qui dit. Arrête de rigoler, Sarah Jeanjo.
C'est normal.
Ok, ça va être dur de ne pas le regarder sans pleurer.
Ouais,
ah ouais, on est bien d'accord.
On est d'accord. Mmh.
Et enfin, notre commentaire mitigé de la semaine qui est Jean-Christophe Legendre.
Oui,
en plus.
Qui dit on sent pas trop le souffle épique.
voilà. C'est-à-dire, si tu veux, regarde Le Seigneur des Anneaux. Allez.
Il y a des Uruk-hai qui vont débarquer.
Mais on sent pas trop le
sujet.
Épique.
Ouais, moi, j'ai déjà une théorie sur
mais
lui.
Qu'est-ce que tu
je fais pense qu'il s'est trompé de page YouTube. Tu sais, ça a enchaîné en lecture automatique sur ça, ce film, et il commentait un autre film. C'est pas possible.
Ouais, il était sur Fast and Furious. Ou...
dans l'espace.
Non, mais je rigole. Elles sont en train de faire du canoë là dans leur forêt, et puis tout d'un coup, il y a les orques qui débarquent.
Ça part en couille. Des Uruk-hai et tout.
Des hobbits qui passent avec un anneau.
Qui meurt, qui fait je vous aurais suivi jusqu'au bout, mon roi.
Bon, bah, très émotion, c'est comme si, comme ça. À part toi, JC, Jean-Christophe.
Ah, JCLG, là.
Merci, Clémence. Petite maman.
Pourquoi tu me regardes?
Deux mots, un adjectif.
Je ne suis pas terrible.
pas terrible comme titre. Pas terrible comme titre. Ouais. On ouvre la page du fait ton titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Crac, crac, clac, bang, bang, gang, gang. Le fais ton titre, simplement, nous, on va parodier le titre de Petite Maman, ça nous plaît pas, pour le recoller sur notre affiche à nous. Et avez-vous fait travailler vos méninges cette semaine?
Johanna est momentanément indisponible.
Ah, elle a pas de titre.
Non, pas de
rien du tout. Rien chez toi.
Mais on ne la juge pas.
À vous, c'est bon, vous mettrez un gage.
Rien dans ton chapeau.
On ne la juge pas. On la juge pas.
Il faut dire que c'était pas évident.
C'est pas évident, petite maman, avec l'histoire et tout, de trouver. Moi, j'ai essayé mes recherches et puis j'ai pas trop. Clément, qu'as-tu, toi, dans ton chapeau?
Alors, ben, j'en ai un, mais vous l'avez spoilé pendant le déroulé de la BA. Donc, c'était la catchphrase, c'était « Vous pensiez le voir dans Parasite, il est enfin là. » Et du coup, mon titre, c'était « Tipeee temporel, le film. » C'est pourri.
Je valide, j'avais Tipeee temporel 2 aussi.
Ah.
Et j'avais Tipeee temporel de
et
retour.
Et sinon, j'ai un autre titre.
j'avais commencé à noter, je vous dis la
terre. Évacuons-le.
Il n'y a pas d'autre Tipeee, là, autour de la table? Ok.
Et j'ai un autre titre, c'est Jumelle, donc J-U-M apostrophe E-2-L-E-S.
Un film pour voir plus gros.
J'aime bien, mais est-ce que ça raconte quelque chose sur le film?
Non, j'ai eu rien d'autre.
Attends, j'ai pas compris ton jeu de mots.
C'est qu'elles sont jumelles et qu'elles
Ah, je crois que c'était parce que comme ça grossissait et que tu voulais faire un truc avec petit.
Elles sont là. Oh, bah ouais, mais vas-y, on trouve
un truc.
Mais
tu es beaucoup plus intelligent que lui.
Ouais, lui à chaque fois. Il est 5 étages au-dessus à chaque fois.
Je cherche, moi.
Non, mais mes titres sont pas terribles. Je...
Pas tant.
J'assume, mais au moins j'en ai.
On critique pas, on a dit.
Clément, as-tu des titres?
Oui, j'avais Tipeee temporel 2. Parce que, non, mais franchement, private joke, mais on y a pensé, c'est obligé. Ah,
la pause Tipeee est terminée.
Et j'ai quand même cherché un autre pour faire un effort. Et alors, comme je trouvais que ça faisait très conte et qu'il y a de la forêt et une maman. Du coup, mon titre, c'est La mère au bois dormant.
Oh,
j'aime. Je sais pas si elle dort, mais voilà, comme elle disparaît, il y a un petit côté...
Très beau,
j'aime bien.
C'est poétique,
c'est très joli.
Et en même temps, ça peut être les bois qui dorment, t'as eu.
Ouais.
J'aime beaucoup. Je plane sur ton titre, Clément, c'est pour te dire.
L'ombre de Romain.
Parce qu'il y a le Contenders en face, là. Kevin.
Oui, bah moi, comme mes collègues, j'avais Tipeee temporel le retour.
C'est vrai.
Pas possible, ça.
Tout est lié. Après, j'ai deux titres. Bon, je suis pas trop fan. J'avais Allô, maman bébé.
Non, tu l'as déjà fait.
Oui, mais on a déjà Allô, maman bébé.
Mais je sais que, bon, on l'a déjà fait. Et sinon, j'avais, parce que je trouvais que ça ressemblait à Souvenir de Marnie, j'avais Souvenir de Mamie.
Pas mal. Mais c'est triste.
Mais c'est triste.
Ouais, mais c'est meilleur que dire ma grand-mère est morte, quoi, sur la
oui,
ah, c'est clair.
Souvenir de Mamie.
Voilà, donc pas très inspiré.
Non, mais j'aime bien le rapprochement Souvenir de Marnie, Souvenir de Mamie. Sympa. Je pense qu'on a déjà notre gagnant, en fait. Parce que moi, mon titre, j'ai essayé de surfer hier. Je me suis un peu remué le cerveau et puis j'ai essayé de trouver un titre qui fait aussi rappel à d'autres films qui parlent du temps, qui ont des boucles temporelles et tout.
J'ai peur.
Non, mais tu vois, j'avais des trucs genre Mominator pour faire Terminator.
L'armée des 12 mamans.
Mais bon, ça...
L'armée des 12 mamans.
Comme ça, tu vois.
L'armée des 12 mamans, je kiffe.
J'avoue, c'est
on
drôle.
On peut pas mettre ça.
Puis j'avais...
Ça peut être la catchphrase.
Oui, mais les 12
sens.
Mamans...
Ça n'a aucun sens.
Et puis, non, bah après, j'ai essayé de faire un truc avec Retour vers le futur. Bon, bah, à part Retour vers le futur, tu... difficile de trouver mieux. Mais Retour vers la confiture, parce que le fond des crêpes. Là, il vient de me venir. Hein. Je l'avais pas écrit, celui-là.
J'aime beaucoup.
Ça peut être une catchphrase.
Retour vers la confiture, je trouve que ça raconte pas mal le côté enfant.
Ah, écoutez, bah, je le note, vous voyez. Ça, c'est la magie du brainstorm. Retour vers la confiture. Et puis, je voulais aussi parodier un autre film de boucle temporelle. Et vu qu'elles font que bouffer dans le film, dans la bande-annonce, j'avais Un jour sans fin, F.I.M.
Oh.
Mais bon, c'est nul.
Clémence.
Oui, bah.
Et Clémence est annoncée vainqueur
ouais,
de
oui,
la saison.
Moi, j'aime beaucoup La mère au bois dormant, c'est assez beau.
Merci,
ouais.
Merci. J'aime bien Retour vers la confiture.
Oui.
J'ai un catchphrase.
Mais en catchphrase, tu mets Retour vers la confiture.
Retour vers la confiture. Le nouveau film de Céline Sciamma, Retour vers la confiture.
Céline
La mère au bois dormant.
Sciamma, Remelade.
Oh là là, je m'en vais.
Too much.
C'était vraiment en trop, ouais.
Ouais, j'ai envie de prendre mon ordi, l'éclater contre le mur, péter un câble. La mère au bois dormant qui remplace Petite Maman, bravo Clémence. Retour vers la confiture, peut-être qu'on va caler par-ci par-là, on verra si ça rentre. Bref, très bon fait ton titre, merci. Je pensais qu'on n'allait pas s'en sortir.
Merci d'avoir relevé le niveau, Clémence.
C'est
vrai que c'était dur, Petite Maman à parodier pour le coup. La mère au bois dormant, très bien. Le 2 juin au cinéma, Petite Maman de Céline Sciamma. Et nous, on va se diriger vers son match retour la semaine prochaine pour parler de ce film. Mais là, tout de suite.
Qu'est-ce qu'on fait?
En parlant de match retour, il y a un film qu'on a vu sur Netflix.
Ouais.
Un film Sony, ouais, d'animation,
c'est quoi,
avec des robots, ouais, des machines et les Mitchell.
Et les Furby.
Et les Furby.
Ah oui.
On passe au match retour des Mitchell contre les machines.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul.
Match retour de Les Mitchell contre les machines, le film de Sony Animation de Michael Rianda, proposé sur la plateforme Netflix à un temps où les cinémas étaient encore fermés. Mais c'est du passé tout ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé, nous, de ce film? On va tout vous dire, mais d'abord, il va falloir que je vous résume l'histoire qu'on s'était imaginée, nous, avec la BA, dans l'épisode précédent. Et on y va, c'est parti. Pal Labs égale Skynet, Skynet, Pal Labs, Pal Labs pète un câble et les robots se détraquent. Ils cherchent les derniers humains qui sont les Mitchell. Mais qui sont les Mitchell? Ça tombe bien, on nous les présente et il s'avère que les Mitchell sont juste la pire famille sur Terre. Pas de chance pour l'humanité. Et puis il y a Cathy Mitchell, l'artiste de la famille, youtubeuse en herbe, au sweat large et aux cheveux en bataille. Une originale quoi. Tous dans la famille sont accros au réseau. Tablette, iPad, téléphone, tout y passe. Le père de la famille n'en peut plus. Et en plus de ça, il ne s'entend pas avec sa grande fille. De toute façon, elle s'en fout parce qu'elle se casse faire ses études loin. Sauf qu'avant, elle va devoir subir le dernier road trip familial à travers le pays et dans le break. Orange.
Le 93.
Pas de chance, bim. Les robots les envahissent. Les humains sont embarqués dans des boîtes à œufs. Dans des... C'est ce qu'on avait dit. Et la dernière des familles sera appelée à combattre les machines en passant par la machine à laver possédée, au micro-ondes endiablé, ou encore par des Furby démoniaques, ces créatures du chétan. Bref, les Mitchell sont peut-être bizarres, mais ils sont surtout le dernier espoir de l'humanité. Voilà. Pas très bien résumé parce que j'ai fait ça dans le métro. Je vous l'avoue, voilà. On se dit tout. Ça, c'était l'histoire qu'on avait pu se faire, le film qu'on s'était fait avec la BA. Qu'en est-il vraiment? Ça raconte
de la vraie réalité.
Tout autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans la
ça
vraie réalité du synopsis?
Ça n'a rien à voir en réalité.
Clémence, et l'honneur te revient de désigner qui va nous résumer l'histoire vu que tu as gagné.
Bah, j'en profite pour une fois qu'il n'a pas gagné, je dis Kevin.
Ah, ok. J'ai eu peur.
Bah, en fait,
tu me regardais en disant ça, j'ai eu très très peur.
En fait, on n'est pas si loin que ça, non. Je trouve.
Non, c'est surtout Jean-Michel qui avait beaucoup déliré.
Oui, bon, lui, excusez-moi. Bon, je l'aime beaucoup. Mais... Non, bah, en fait, effectivement, c'est l'histoire des Mitchells, qui est une famille gentiment dysfonctionnelle, je dirais, parce qu'il y a de l'amour, mais bon, il y a de l'incompréhension, notamment entre le papa et la grande sœur. Mais le reste de la famille, voilà, ils s'entendent très bien. Grosse complicité avec le petit frère, assez original, parce que d'habitude, dans les films, le petit frère et la grande sœur, ils passent leur vie à se taper dessus, là, c'est pas le cas. Et donc voilà, alors que la grande fille doit rentrer dans une école de cinéma, parce qu'elle veut faire du cinéma. Voilà. Son père décide, pour renouer avec elle deux, la forcer à faire un trip familial en bagnole pour l'emmener à son université. Sauf que, au même moment, le Steve Jobs du film jette son téléphone portable qui contenait une intelligence artificielle nommée PAL pour la remplacer par des robots, ce que PAL prend très mal, et donc envoie les robots détruire l'humanité, parce que l'humanité ne mérite pas d'être sauvée, parce que bah, vous avez vu comment ils se comportent, c'est vraiment des salauds, quoi. Du coup, par conséquent, par plein de péripéties, n'est-ce pas, les Mitchells vont devenir les nouveaux héros et faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver l'humanité du joug des horribles machines.
Et spoiler alert, ils vont y arriver.
Ils vont y arriver.
C'est assez fou, ça.
On imagine à la fin, pas du tout.
Et à la fin, il meurt.
Oui, on n'était pas trop éloignés.
Oh, c'était plutôt ça.
C'était carrément ça, même. Donc, ouais, on avait bien mis le point sur le fait que bah, c'était une youtubeuse, qu'on la voyait faire des trucs. Donc, ouais, vraiment, à l'école du ciné et tout. Elle est vraiment sur YouTube, en plus.
Ouais.
Donc, bonne pioche. Et on avait aussi émis le fait... Pour résumer un peu le truc, déjà la BA au départ, on s'attendait vraiment à une douille positive, c'est-à-dire que la BA elle n'était pas folichonne, mais par contre on savait que derrière se cachait un très bon film. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça n'a pas été le cas? On va le savoir tout de suite en ouvrant la page du Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille, c'est simplement la comparaison de la BA à son produit final. Est-ce que le produit qu'on nous a vendu était-il fidèle au film ? On s'était, nous, pour rappeler un peu le truc, on avait pressenti que comme pour La Grande Aventure Lego ou même encore pour d'autres films ailleurs, hein, comme La Famille Adams ou Spider-Man, il y allait avoir une espèce de message politique sous-jacent dans le film, notamment par rapport au réseau et tout ça. Est-ce que c'est le cas ? On va le savoir tout de suite. Douille ou pas douille ? Alors, qui veut commencer ? Clément, allez, pour commencer, douille
ou
pas douille ?
Oui, moi je trouve que c'est une douille positive parce que c'est exactement ce qu'on attendait. Enfin, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que le film est mieux que la BA, qui était un petit peu peut-être cliché, stéréotypé, en mode hey, « Eh, vous connaissez ma famille, je vais vous présenter. Lui, c'est machin. » Voilà, bon, des trucs qu'on a déjà vus. Mais le film va au-delà et est assez touchant, je trouve. Donc, ouais, carrément douille positive.
Je parie que c'est pareil pour toi, Kevin.
Bah écoute, je vais pas vous étonner, mais c'est plutôt une douille positive, effectivement. c'est mieux que la BA. La BA a déjà annoncé un film qui avait l'air sympa, hein, mais je trouve qu'il y a une dimension en plus supplémentaire qu'on fait vraiment un très bon film.
Clémence, douille ou pas douille ?
Bah douille positive. Le côté énervant de la BA qui disait « Oui, nous, c'est les Mitchells, nanana », il y est dans le film, mais au tout début. Donc c'est vite évacué et voilà. Et après, c'est mieux.
Johanna, douillé, pas douillé ?
Douille positive, je trouvais qu'il y avait même des originalités dans l'image. Je m'y attendais un peu, mais voilà. Mmh. C'est le premier film que je vois avec des mèmes dans le film.
Ouais, c'est... On va oui.
Trop bien ça, pour nous, cool. La génération...
des boomers.
Génération Y, je crois, je sais plus. Je sais pas quelle lettre on nous a affublé. Oui, bah, pareil, hein, on est sur un caté gagnant, encore une fois, décidément, c'est cet épisode. Tout le monde est d'accord. Évidemment,
c'est trop bah, ça change de The Nest, non ?
Le cheval respire. Non, tu dis.
Salaud !
Cheval Gate.
Pire match retour. Non mais oui, douille positive évidemment, on l'avait pressenti parce qu'on est des vrais experts de la BA. Et puis non, bah, après voilà, on avait évoqué le CV de, bah, des producteurs qui avaient fait 21 Jump Street, Brooklyn Nine-Nine entre autres. Donc on savait très bien qu'il bah, allait y avoir de la qualité hein, derrière, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de voir ça, c'est très cool à Netflix de l'avoir mis sur la plateforme. Pas douille du tout du coup, hein, vraiment grosse douille positive. Et ça fait plaisir de se faire douiller positivement. Mais qu'en est-il ? Ça, c'est bien beau, c'était la BA, c'était le film. Le film en lui-même, qu'est-ce qu'il vaut ? Johanna, allez, je te laisse ouvrir le débat parce que tu viens de parler ouais, de l'aspect graphique du film qui est surprenant.
Oui, ben en fait, ça m'a fait penser, ça va être étonnant le parallèle, à Mission Cléopâtre. Parce que quand dans le rythme du film, dès que ça part dans le côté un peu amusant, t'as vraiment une vanne par image quoi, qui se cache quelque part dans l'image. Les styles graphiques sont mélangés. Donc il y a du coup de l'animation, du dessin par moment. Il y a carrément, vu que ça parle beaucoup d'Internet et des réseaux, ben, il y a des mèmes ou ouais. Des images réelles qui apparaissent
de vidéos YouTube,
en plein milieu du... Ouais, et ça va jusqu'au générique de fin que j'ai trouvé hyper original. Ou je sais pas si vous êtes allé jusqu'au générique de fin du coup.
Ouais, c'est
où, les photos de famille et d'enfance des personnes qui ont créé le film défilent en même temps que leur nom apparaît au générique.
Ça, c'était très cool, ça.
Ouais. Bah, moi, écoute, j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup ri. Je me suis laissé complètement emporter par l'histoire. Au début, je me suis demandé où ça va, tout ça. Mais une fois que c'était lancé, c'était parti. Hyper touchant, les relations de famille qu'ils ont. Tous, je trouve que la dynamique familiale est hyper bien trouvée. C'est qu'il y a vraiment chacun à sa place. Il n'y a pas de haine ou de personne désagréable. C'est vraiment, comme disait Kevin, c'est que de l'amour, mais avec de l'incompréhension. Avec le personnage du petit frère qui est absolument adorable et qui essaie de... Et de la mère qui essaie de renouer les liens entre le père et la fille. Enfin, je pense que ça, c'est un film qui parle à tout le monde. Toute personne ayant une famille...
Oui. Ça, c'est triste.
Tu viens toute le seum
à Rémi sans famille, on le rappelle. Ça. Mais ouais. Ça, c'est dû au fait que c'est, je l'ai lu ça à côté, que c'est très autobiographique. Enfin, il y a beaucoup de passages autobiographiques en fait. Donc, ils ont vraiment pioché dans leur, ben, dans leur enfance,
ça
dans
se
leur
voit,
vie de famille.
Le moment où ils se battent les robots avec les sabres et tout là.
Ouais, puis tu le comprends. Tu te rappelles pas en 95 ce fameux Furby Gate au centre commercial Atlantis. Mais non, mais oui, puis en plus on le comprend encore mieux à la fin parce qu'on voit les photos de chaque famille, de chaque personne qui ont participé au film. Donc ouais. Donc, mais j'ai l'impression que Sony là, est en train de trouver sa patte.
Il est en train de trouver sa signature. Ils avaient déjà l'aspect cartoonesque avec Tempête de boulettes géantes. Ils avaient vraiment commencé comme ça en se démarquant sur le, bah, sur le design de leur personnage. Mais là, vraiment, dans l'animation, vas-y qu'on te rajoute des dessins à la main, griffonnés, aspect bloc-notes. Et vas-y qu'on te met des musiques internet. Quelque chose qu'on avait, un peu vu dans Spider-Man.
Ouais,
et maintenant, vraiment, c'est devenu leur signature, quoi, j'ai l'impression. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que, Kevin, toi, comment t'as reçu le film?
Franchement, très positivement. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans le film, au-delà de l'aspect graphique que je trouve vraiment chouette, vraiment super impactant, en plus avec une vraie personnalité, parce qu'il y a quand même pas mal de studios d'animation américains qui tentent de faire un peu du simili Pixar et que ça devient un peu lassant parce que t'as l'impression qu'ils font juste du copycat, quoi. Alors qu'eux, ils ont vraiment leurs pattes. Mais moi, je trouve qu'il y a une vibe, ça m'a rappelé quand j'étais petit que je regardais Cartoon Network, quoi. Il y a vraiment une vibe cartoon à l'ancienne, quoi, avec cet humour totalement décalé, enfin. Où ça va trop loin, mais ça va dans le bon sens, quoi. Ça va toujours trop loin et c'est vraiment génial. Et puis moi j'aime bien la manière dont les persos sont écrits, parce que finalement l'histoire on l'a déjà vu. En fait le film on l'a déjà vu sur l'histoire de base. Hein. C'est une fille qui s'entend avec son père, ou ça peut être un fils avec sa mère ou peu importe, on s'en fout. Puis après par un voyage initiatique, blablabla, et des aventures, ils vont se rabibocher, etc. Donc en fait on l'a déjà vu. Mais
ils vont se rencontrer, se connaître.
Mais
on se rend compte qu'ils étaient très complices avant et que ça s'est perdu en route. Quoi.
Mais je trouve qu'il y a intelligent de la manière dont ils sont écrits parce que je saurais pas mettre les mots dessus, mais je trouve que tout coule vraiment bien dans les dialogues, dans les manières. En fait, les personnages sont très vite définis, même si tu vois par exemple la mère que j'avais peur un peu qu'elle soit un peu à côté, qu'elle soit un peu effacée.
Oui.
Et en fait, elle l'est pas tant que ça. Et
elle est trop cool.
Elle est trop cool, quoi. Elle est trop bien définie. Enfin, l'écriture sur le long terme, sur la durée du film, est vraiment super efficace, je trouve. Et puis, je trouve que c'est aussi un film qui a, comme la famille Adams, qu'on en parlait il y a deux ans. L'an dernier, je ne sais plus.
C'est très proche, je trouve.
Ouais, c'est assez proche. Et tu as quand même ce commentaire social, ce commentaire générationnel qui est là. Même si ce n'est pas pour te changer totalement ton avis sur la vie, mais le commentaire est là sur l'obsolescence programmée, sur le fait qu'on est interconnecté, sur les rapports humains qui peuvent parfois se perdre, sans dire que pour autant que la technologie, les nouvelles manières de communiquer sont mauvaises, parce que c'est grâce à ça, en fait, qui sauve quand même le monde à la fin. Spoiler, bon, vous avez vu le film. Mais, mais voilà, je trouve que voilà, t'as vraiment un commentaire très positif, très, très bienveillant finalement. Avec, c'est pas une conclusion avec le cul entre deux chaises, quoi. C'est pour dire, bah écoutez, effectivement, il y a du bon dans les deux aspects. Et ce qu'il faut, c'est juste trouver l'équilibre. Et puis, j'aime bien ce genre de film.
Il faut trouver une clé de 3 plus internet.
Exactement.
Une clé de 3, ouais. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait cette dénonciation un peu des réseaux et tout, et en fait non, pas du tout. On est vraiment, je trouve, plus, enfin pas du tout, mais pas totalement.
Elle est là, mais plus sur l'aspect, je trouve,
dérives, de ce que les gens font de cette
coup, je trouve que le film se porte plus sur tout ce qui est valeurs familiales et tout, c'est dans sa morale, quoi.
Parce que finalement la vraie critique des réseaux est plus sur l'aspect on va dire business, quoi, avec justement le Steve Jobs.
Et puis que nous on choisit de faire avec ces outils, quoi. À un moment le robot elle dit aussi je t'ai donné de l'intelligence et tout, et toi qu'est-ce que tu fais avec moi?
Exactement.
Clément, comment toi tu as
entièrement d'accord avec, c'est incroyable, il y a un consensus total. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je reviens juste sur les petits trucs que j'ai aimés. Oui, les espèces d'émojis qui s'affichent à l'écran pour exprimer les sentiments des personnages, même quand parfois ils ne parlent pas, il y a des petits cœurs ou des petites choses qui se dégagent d'eux et on sait ce qu'ils pensent. Ça, c'est une idée que j'ai bien aimée. Les mèmes aussi, voilà, les relations familiales, ce que tu disais Johanna, comment on se juge constamment en fait en famille, et alors qu'il faut essayer d'avoir plus de l'empathie envers ses proches, et c'est une des leçons du film. J'aime beaucoup que le méchant du film ça soit un portable. Je trouve que c'est j'avais jamais vu trop cette idée, mais je trouve que c'est quand même très révélateur.
Tu te souviens dans Bienvenue chez les Robinson, c'était un chapeau le méchant.
Ouais. J'ai trouvé ça proche de la famille Adams quand même, dans le côté on est bizarre mais il faut accepter d'être bizarre tous ensemble parce qu'en fait tout le monde est bizarre, voilà. Il y a un peu la même morale. Il y a juste un point moi qui m'a un peu déçu dans le film, c'est que je trouve que le message est quand même très 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 martelé, et que tous les dialogues, toutes les scènes un peu d'action et tout sont dans le sens de dire que cette famille elle est différente mais que c'est ça qui fait sa force, et c'est un peu systématique, et j'aurais aimé qu'à des moments ça soit un peu plus subtil, mais voilà, c'est un peu gros sabot à certains moments sur le message familial, mais c'est un très beau film avec un beau message. C'est quand même compliqué de pas aimer le film, quoi.
T'as pas eu l'impression que justement c'était vachement second degré, comme par exemple tout le moment où elle fait son speech sur la famille et pourquoi les humains ils méritent pas de disparaître, et qu'en face t'as l'application qui s'endort en disant c'était hyper chiant en fait ta morale. Enfin, j'ai l'impression que c'est très second degré le fait de marteler ce message.
Ouais,
c'est...
Moi, je
ils prennent du
ça,
recul c'est... dessus aussi puis et ils s'en moquent un peu.
C'est
ouais.
une kung-fu fighter à la fin. Et
ouais.
Tout,
ouais.
Ah, ça, c'est incroyable, ça.
C'est plus, on est vraiment là, on déconne quoi. À la fin, c'est allez, on lâche tout quoi. C'est un peu comment dire le cahier des charges du film d'animation pour la famille quoi.
Ouais, ouais.
Faut qu'à un moment ça éclate et donc on perd un peu le sens du truc initial quoi. Mais
mention spéciale pour le chien, on oublie d'en parler.
c'est vrai qu'on parle pas beaucoup du chien.
Le chien
incroyable,
est incroyable.
Ce chien,
qui est vraiment un enjeu.
Oui. Et qui est un des piliers de cette famille.
C'est vrai en plus.
Le chien et les Furby, Clémence. Bah alors, oui. Les Furby dans
alors,
le film.
Si tu veux, j'aurais donné mon avis sur le film. En dehors du fait
c'est
que j'aime
manière,
les Furby, je ne me réduis pas à ça.
C'est une professionnelle de
transition
vers ton avis, justement, vois-tu.
Et on apprécie cette technique.
Non, je vais vite évacuer les Furby, puisqu'aujourd'hui, on évacue des choses comme ça. franchement, un peu frustrée parce que c'est trop rapide.
Ouais.
On voyait tout dans la BA quand même pour les
ouais,
Furby.
Peu, ouais.
Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'au début, le tout début où ils se manifestent, les Furby se manifestent par leur rire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils rient comme ça, ils font hi hi hi, hi hi hi. Ils ont rire comme ça. Mais en fait, c'est vraiment le vrai rire des Furby de cette époque.
Mais oui.
Mon Furby riait comme ça, quoi.
Bah, donc c'est important.
C'est
vrai.
Oui,
c'est vraiment des créatures
du démon. J'en revenais pas, parce qu'en fait c'est un rire qui est pas maléfique au départ quand c'est le Furby qui est sorti qu'on a eu. Mais sauf que là dans le film ils ont réussi à le mettre en mode maléfique quoi.
Bah je sais pas moi ça fait sens. Ils sont maléfiques t'as fait
comment
ça c'est une créature du shaitan, je le répète. Donc oui. Bon alors le film du coup.
Ouais. Sinon à part ça vous avez dit tout ce que je pense déjà. Je suis assez d'accord que c'est une synthèse vraiment très bien faite entre Spider-Man pour le côté graphique. En plus de l'animation 3D et Tempête de boulettes géantes pour le côté Cartoon Network vibe, comme tu disais, Kevin, ultra outré. Et ça, j'adore cet humour. Ce que j'ai encore plus kiffé, qui a pour moi été nouveau dans celui-là, c'est vraiment la rapidité du rythme et en effet des images. Et je trouve que ça va totalement avec le délire YouTube poop, en fait. Parce que vraiment, c'est ça, c'est pas des mèmes, c'est des YouTube poop, quoi. C'est le mélange de références pour faire un truc complètement absurde.
Ouais.
Et ce qui est trop bien fait, c'est qu'à chaque scène de film, t'as des genres de YouTube poop qui pop, parce que c'est comme si elle était en train de faire sa vidéo, la fille. Et en fait, t'as le chien, les personnages, t'as, je sais pas s'ils ont parlé d'un blaireau, t'as un blaireau dans le coin de l'image, t'as toutes les petites refs à tout ce qui vient de se passer dans les 10 minutes ou la scène qui vient de se passer. Quoi.
C'est très dans l'air du temps, du coup.
C'est génial,
c'est
et ça, mais ça m'a
YouTube,
fait
quoi.
Kiffer. En fait, j'aurais presque pu regarder le film sans vraiment trop me soucier de l'intrigue principale, mais dans cet enchaînement de scénettes en façon YouTube poop et même comme ça.
C'est très mitraillette hein, comme rythme, ça va à 2 minutes.
C'est vrai qu'au début,
oui, tu
ouais,
captes
ça,
pas tout.
Quand t'es vraiment dans la maison avec la famille, ça bombarde quand il se présente le gamin, elle et tout. Mais après, voilà, tout le monde, quand si tu le regardes en famille, le film, tout le monde s'y retrouve en fait, parce que ton daron peut se retrouver dans le daron, toi tu te retrouves dans la fille ou le gamin, ta mère, bah, c'est notre daronne, la mère, quoi. C'est vraiment la bienveillance au taquet, la protection et tout, mais en même temps, voilà, on va pas trop s'imposer parce que bah, l'éducation, ça se fait à deux.
Et en même temps,
quoi.
Quand tu touches au petit dernier.
Ouais.
Le katana, mon gars, le katana.
Et faire la médiation entre un peu tout le monde, quoi.
Et toi, Romain, alors ?
Vraiment, pour donner mon avis sur le ressenti du film hors technique. C'est vrai qu'au début, avec la BA, j'ai cru que j'allais me retrouver dans le gamin parce que bon, il collectionnait les dinosaures, il est à fond dans le truc. Je me suis un peu retrouvé de là-dedans. Puis c'était un garçon aussi, donc forcément, je me suis identifié avec la BA, avec ce gosse. En fait, pas du tout. Non, je suis Cathy Mitchell.
Mais oui,
vraiment pensé à toi.
Le monteur fou.
Je suis trop Cathy Mitchell, mais même la relation avec le père et tout, c'est exactement ça. Moi, mon père, aujourd'hui, il sait même pas ce que c'est un podcast. Il sait que je fais un truc. Il fait ça marche ta radio ton truc et je sais qu'il écoute pas, il est totalement à part et c'est exactement le problème de Cathy Mitchell, c'est que son père rentre pas dans son monde, donc ça fait un peu, c'est un peu triste, mais bon après voilà, on suit nos chemins et puis mon père m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire, il m'a jamais jugé ou quoi, mais il s'intéresse pas quoi, comme le père de Cathy Mitchell, donc je me suis trop identifié
et
à Cathy Mitchell.
Et t'as oublié
de
dire que ton père collectionne les tournevis aussi.
Et mon père est très bricoleur. Mon père, c'est totalement le gars cabane dans les bois qui va la construire de ses propres mains. C'est totalement ça. Alors que moi, pas du tout. Moi, tu me donnes un tournevis. Mon tournevis chez moi, c'est le couteau pointu. Là, ça fait tournevis, clé à molette, ça fait tout. Ciseaux.
Chausse-pied.
Donc, je suis pas bricoleur comme ça. Donc, j'ai vraiment cet écart-là. Et donc, Cathy Mitchell, le père Mitchell, la mère qui est là. La mère est pas forcément ma mère pour le coup. Mais ouais, surprenant du coup. Donc, cette identification déjà dès le départ, j'étais dans le film. Quoi. J'étais dans le film et je voulais aller voir jusqu'au bout. Il aurait pu ne pas avoir de robot ou quoi, et juste pour rester dans la famille. Ça pourrait être déclinable en série,
en fait, je trouve que la thématique technologie, elle n'est pas tant valorisée par l'enjeu robot et danger de l'invasion robot que par la relation père-fille. Et ce qui est bien fait, c'est qu'en effet, il ne comprend pas le délire, le père. La fille ne comprend pas non plus son père, mais à la fin, il renoue. Et puis lui, il fait un effort en apprenant à faire des recherches sur Internet. Ouais. Il s'ouvre quand même à la nouvelle ère.
Ouais, mon père, quoi.
Voilà, et elle le comprend aussi un peu plus. Elle comprend pourquoi il est comme ça et il comprend rien, quoi.
Je me suis tapé un gros fou rire quand à la fin il lui explique qu'il s'est abonné à sa chaîne YouTube et que c'était hyper simple et que t'as une espèce de flashback avec lui qui essaie d'utiliser Internet et qu'à un moment on le voit pleurer dans un coin parce qu'il n'arrive pas à utiliser un ordinateur. Ça
c'est trop drôle. Mais même la scène juste où il reçoit, le mot deviens mon ami.
Oui. Du père le daron.
Reçoit par la poste.
Totalement du père, mais trop mon père.
J'ai cru que c'était un psychopathe.
Non mais c'est fou, ils ont vraiment réussi un bon petit tour de force, je trouve. Sony, quoi. Moi j'ai confiance là, du coup. En plus il y a Blue Sky qui s'est fait racheter là il y a pas longtemps. Enfin ils ont carrément fermé le truc.
Moi je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est rassurant que ça soit une concurrence qui propose aussi quelque chose de différent.
Ils ont vraiment leur touch, quoi.
Voilà, ça soit pas de la copie, genre on fait les mêmes films que Pixar, on fait les mêmes films que DreamWorks, c'est juste un autre studio là, ils ont vraiment leur patte et c'est cool, quoi.
Ils ont leur truc et c'est bien, j'espère qu'ils vont continuer là-dedans. Voilà, validé, hein. Les Michel est validé, certainement à recommander aussi.
Il faut faire des recommandations.
Ça tombe bien, on a une rubrique pour ça. La page des Rococo, c'est parti.
À qui le Rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le Rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui ?
Your break, les recommandations, ce qui nous permet de recommander à qui on veut ce film de manière plus ou moins drôle.
J'aime bien le plus
ça
ou moins.
Non, des
plus,
gens.
Ou, plus souvent plus que moins, hein, on vous rassure. Alors, les rococo, Kevin, tes rococo.
Moi, je le recommande à tous les apprentis YouTube Pooper.
Ah, mais y a pas quelqu'un qui a un frère YouTube Pooper
Oui,
si
moi.
C'est toi. Toi, c'est ton frère qui fait du YouTube Pooper.
Il en fait plus.
Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le YouTube Pooper?
Alors,
je pense à un caca YouTube.
Ouais, attendez, j'avais cherché la définition
en fait,
sur Google.
En fait, un YouTube Poop, avec des mots simples, c'est un montage... en fait, c'est un montage de plein de mèmes internet dans une vidéo scénarisée entre guillemets, mais le scénario se fait par les extraits choisis, si
d'accord,
tu veux.
D'accord.
Mais il faut que ça soit très absurde. En fait, c'est très, en fait, faut en voir un pour comprendre à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment psychédélique, quoi.
Ouais. Okay. Oui, c'est très psyché.
Moi, j'en suis un sur, c'est le seul, je crois que je suis sur YouTube qui s'appelle Citron XMe. Voilà, il fait des vidéos YouTube avec des extraits de Tintin, le dessin animé. Enfin bref, c'est un délire.
En fait, YouTube Poop, ça veut dire caca.
Caca, ouais.
Caca YouTube.
C'est-à-dire, c'est la poubelle, en fait. C'est un peu le truc que tu fais un mash-up.
Ouais, c'est un peu comme les vomis intellectuels. C'est un peu c'était la même genre.
C'est fascinant, regardez. Ouais. C'est un gros travail de montage aussi, parfois. Clément, des rococo.
Oui, j'avais mis au possesseur de Tournevis, vous êtes les sauveurs de l'humanité.
Ah oui, les régisseurs.
Eh ouais, bah ouais. Johanna, tu vas nous sauver un de ces quatre avec ton Leatherman.
Inch'Allah.
Toi, tu recommandes à qui ce film ?
Bah, tous les passionnés de tapioca, vous avez une grosse dédicace dans le film.
Je l'ai pas.
Dérégulé
tapioca.
Ok.
C'est un YouTube poubeur, je pense.
Clémence, des rococo ?
Oui, aux fans de Pug.
Aux fans de Pug ? Ah, de Pug.
Les Carlin.
Florence Pug.
Piu, Florence
Pug. De Pug.
Le Carlin, ce chien que nous avons dans le film, qui a une sale gueule, mais
un strabisme.
Ouais.
Et toi, Romain, qui le recocotes-tu ?
Bah moi, c'est simple, je recommande ce film à mon père, direct. Papa, regarde, ils ont fait un film sur nous. Mais clairement, parce que vraiment, l'histoire père-fille, c'est moi et mon père, quoi. Donc, Cathy Mitchell, c'est moi. Et lui, c'est lui.
Petit papa.
Hashtag je suis Cathy Mitchell.
Donc, j'aimerais bien qu'il voit ce film. Je sais qu'il le verra jamais, de toute manière, mais pour le fun, je recommande ça à mon père. Ah bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de se dire au revoir.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible ? À la fraîche ? Décontracté du gland ? Et on bandera quand on aura envie de bander ?
Voilà ! Pour l'épisode 52 de Feta Béa, qui est revenu sur la Béa de Petite Maman. De la magnifique, talentueuse, l'intelligente, le génie Céline Sciamma, qu'on va s'empresser d'aller voir dès le 2 juin au cinéma, tout confort dans nos salles enfin. Et puis, si on veut se remater les Mitchell, ça se passe dans le canapé devant Netflix. Moi, je vais peut-être me refaire une séance VO, parce que je l'ai vu en VF, du coup. Et puis, on vous le recommande fortement. Pour la semaine prochaine, comment vous teasez ce que... Ah, vous savez, parfois, une bonne annonce vaut mieux qu'un long discours.
C'est bien vrai.
Il a galéré à sortir ce film de Laurent Tirard, inspiré de l'œuvre de Fab Caro, nommé Le Discours. On l'a vu, moi je l'ai vu 1000 fois dans le métro, avec une date en juin 2020, avec une date en septembre 2020, avec une date en décembre 2020, pour finalement sortir là très bientôt, finalement 2021.
Mais finalement, il fait partie des affiches qui sont restées le plus longtemps dans le métro pendant tous ces confinements.
Ah ouais, exactement. Ouais.
Le Discours de Laurent Tirard, enfin. Du coup, nous, on va se faire la BA de ce film qui était déjà prévu au programme l'année dernière. Donc, on a de la chance, on peut le recaler là, dans notre nouveau programme. De Laurent Tirard, on vous parlera de Laurent Tirard et on vous parlera aussi de Fab Caro, peut-être que vous ne connaissez pas, qui va nous permettre, du coup, d'explorer le monde de la BD. Voilà, les amis.
Ouais.
Bah, j'ai hâte d'y être.
Bah ouais,
c'était
ouais.
Cool. Et puis, bah, on va profiter, nous, de cette belle fin de dimanche ensoleillée.
Tout à fait.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux, hein, vous connaissez, hein, Facebook, Twitter, mettez-nous des notes sur Podcast Addict, Apple Podcast, vous connaissez, ça c'est la partie comme de Feta BA, et puis bon, on se dit à la semaine prochaine, des bisous.
Salut,
et
ben,
salut,
salut, salut, bisous. Salut la team.
Shoshana!
Pourquoi je vois Marine Le Pen là-bas?
Hein?
Elle dépasse de. Elle dépasse de.
T'as un poster de Marine Le Pen, Johanna?
C'est tellement what the fuck!
Ah, c'était cool!
Trop bien, bah, bon petit épisode.